Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai le plaisir de vous accueillir à Mendès France, mandaté par son président Mario Cotron, qui est absent ce soir, et qui m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire de discours. Le sujet est suffisamment intéressant et grave, donc je laisse la parole à l'association Alzheimer, et je vous souhaite une bonne soirée malgré le sujet qui peut nous toucher tous.
Bonsoir, messieurs, dames. C'est en qualité de, en tant que membre de France Alzheimer Vienne, qu'il me revient à la tâche d'introduire cette conférence en vous remerciant de votre présence ce soir. Nous sommes heureux d'accueillir le professeur Jean-Jacques Giraud, professeur à l'Université de médecine et pharmacie et responsable du diplôme universitaire d'art thérapie de Poitiers. J'ajouterai musicien et plasticien. Le professeur Roger Gilles, président d'honneur de France Alzheimer Vienne, est excusé. Il ne pourra être présent ce soir à cette conférence. Alors, l'association France Alzheimer agit depuis 20 ans pour améliorer l'accompagnement de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Sa mission est de promouvoir les bonnes pratiques, d'aider les familles et de stimuler la réflexion sur la qualité de la prise en soin du malade. Depuis quelques années, le regard porté sur les maladies neurodégénératives s'est modifié. Les principes de réhabilitation qui s'intéressaient principalement à la thérapie physique se sont progressivement étendus au domaine cognitif et sensoriel. Et c'est dans cette perspective élargie qu'aujourd'hui la maladie d'Alzheimer n'est plus considérée comme une maladie disqualifiante, mais une pathologie qui génère une forme particulière de handicap. Les thérapies non médicamenteuses sont parties d'un dispositif de soins pour répondre aux besoins grandissants de prise en charge des troubles liés à l'âge ainsi qu'aux pathologies démentielles. Alors, l'ergothérapie, l'art-thérapie, la musicothérapie, l'orthophonie, psychomotricité, la kinésithérapie, les activités physiques adapté au service de la personne âgée. Je ne les citerai pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a d'autres, disons. Ces thérapies sont nécessaires pour améliorer les capacités de communication et les capacités fonctionnelles et exécutives de la personne âgée. Les trois thérapies présentées ce soir vont vous montrer quelles sont leurs actions, leurs outils thérapeutiques et les bénéfices qu'elles peuvent apporter par leurs interventions. Nous verrons également quelles peuvent être leurs complémentarités dans un cadre de soins. Tout d'abord, l'art-thérapie vous sera présentée dans sa définition, ses outils, ses objectifs, son cadre d'intervention par Valérie Landreau-Martinez, puis deux études de cas auprès de personnes dépendantes seront présentées par Madame Christine Vivion et Madame Givania Rodriguez, art-thérapeute. Au passage, je dirais que Valérie Landreau-Martinez est également art-thérapeute. L'ergothérapie sera à son tour définie et présentée par M. Étienne Héroux, ergothérapeute auprès de personnes âgées dépendantes. Et enfin, l'activité physique adaptée, une démarche singulière, vous sera expliquée par M. Le Charpentier et Rouman, qui interviennent également auprès de personnes âgées. J'espère que le débat qui va suivre répondra aux questions que vous vous posez et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Et j'espère que cet échange permettra d'apporter des précisions et sur nos interventions thérapeutiques. Je laisse tout de suite la parole aux intervenants. Valérie Landreau-Martinez, art-thérapeute, diplômée de la faculté de médecine de Tours. Diplômée en 2005, elle est intervenante à la Fratapel et à la faculté de médecine de Poitiers. Actuellement, elle intervient dans des accueils de jour
Et elle a créé aussi une association qui est intéressante, Articolor. Ce sont des ateliers plastiques collectifs individuels. Nous allons l'écouter. Merci.
Merci Sylvie. Je ne sais pas si ce micro c'est bon. Ok. Je vais avoir du mal à rester coincée ici, mais pour faire défiler les diapos, je suis obligée. Donc, je vais commencer, comme l'expliquait Sylvie, par vous définir ce que c'est que l'art thérapie, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une multitude de quelque chose thérapie au service de la personne, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui sont un petit peu perdues et qui ne savent pas ce qu'on met là-dedans. Hein, aujourd'hui, on a l'impression que quand, moi, par exemple, je suis gourmande, j'aime bien aller au restaurant, quand je vais faire un beau resto, on dirait presque que c'est de la gastrothérapie, hein, tout devient quelque chose de thérapie. Or, aujourd'hui, ces disciplines, il y a des disciplines extrêmement sérieuses qui font l'objet de recherches. Ça parle à beaucoup, la gastrothérapie, apparemment. Donc, en fait, je disais que ce qu'on va vous présenter ce soir, les trois disciplines font l'objet de recherches et d'enseignements sérieux. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de développer énormément, bien que ça va être très dense, les présentations, de rentrer beaucoup dans les détails, mais j'espère qu'on va pouvoir vous aider à cerner, à retenir l'essentiel. Alors, en fait, nous, on représente ici les quatre art-thérapeutes, puisque Sylvie n'a pas précisé qu'elle est également art-thérapeute diplômée de l'école d'art-thérapie du modèle fac de médecine et de Tours, hein, c'est ça,
Tours,
comme moi. Donc, en fait, le modèle qu'on va vous présenter, c'est celui qu'on appelle l'école d'art-thérapie de Tours, qui est enseignée dans quatre universités aujourd'hui en France, Tours, Poitiers, Grenoble et Lille. C'est un modèle original et différent du modèle psychothérapie à médiation artistique qui est enseigné dans des facultés de psychologie. Alors, nous, la définition qu'on donne à l'art-thérapie, c'est l'exploitation du potentiel artistique d'une personne dans une visée thérapeutique et humanitaire. Quand on est dans l'art, quand on participe à un atelier artistique, on se met au service de l'art, de notre idéal esthétique. Dans l'art-thérapie, je dirais, c'est un peu l'inverse. C'est l'art qui va se mettre au service de l'homme pour faire en sorte qu'il aille mieux. Donc on peut dire que lorsqu'on vit un processus de production artistique, sous forme d'exercice dirigé et adapté, on peut se sentir mieux dans sa tête et au mieux dans son corps. Alors dans art-thérapie, déjà il y a le mot art, et là aussi on peut mettre plein de choses. On simplifie cette notion dans la manière de ce que ça va apporter à l'être humain. Hein, on part du fait que l'art, c'est une activité spécifiquement humaine. A priori, les animaux ne font pas d'art. Ou quand vous voyez, par exemple, un joli paysage de coucher de soleil, on peut dire que c'est beau, mais ce n'est pas de l'art pour autant. Donc c'est vraiment l'action de l'homme orientée vers un idéal esthétique. Alors ça tombe bien parce qu'un idéal esthétique, on en a tous un. Si madame a mis un joli pull rouge aujourd'hui, c'est parce qu'elle a envie de s'habiller en rouge, mais peut-être aussi parce qu'elle se sent bien, elle se sent belle avec ce rouge. Si on met des rideaux à nos fenêtres, c'est aussi parce qu'on a cet idéal, sinon on aurait tous les mêmes maisons grises, les mêmes vêtements, et on serait tous habillés en uniforme. Donc ça, tout le monde a cet idéal esthétique. Après, c'est pas pour autant qu'on a envie de passer dans l'activité. On peut être simplement esthète et apprécier l'art, par exemple aller à un concert de musique, aller à une exposition de peinture, sans pour autant avoir envie d'agir. Donc, qu'est-ce qui se passe par contre quand on est dans cette action? Cet idéal du beau, en fait, permet de rectifier, d'améliorer sa production et d'en être satisfait. Donc on voit qu'au fil de notre production, j'ai mis un exemple d'un tableau qui évolue jusqu'à sa finalité, on passe par des étapes qui font que le cerveau, puisque ça vient bien de notre tête, ce qui se passe, c'est d'un point de vue neurologique, va mettre en œuvre des mécanismes qui vont être activés par rapport à cet idéal du beau. Mais si je peins ici, je vais bien dire à ma main, il faut tracer le trait de telle manière, choisir telle couleur. Si je vais rectifier, c'est bien des mécanismes aussi qui se passent dans ma tête qui vont être activés, qui vont être opérants. D'accord ? Donc ça demande un effort, hein, ça demande un effort d'abstraction, et l'art a également un pouvoir d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a une émulation à vouloir faire ce beau, à vouloir l'améliorer. Hein, c'est rare qu'on laisse en plan. On peut dire, tiens, ça c'est pas bon, je le mets de côté, j'arrête ma production. Mais en général, on a envie d'aller plus loin. Ou alors, on va recommencer à faire autre chose. Alors, chaque être humain a un ressenti face à une production artistique qui active donc des mécanismes intérieurs. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc là, par rapport à des œuvres picturales, on peut se demander, que ressentez-vous? Et à ce moment-là, quels mécanismes sont mis en œuvre? Il y a des émotions qui se produisent. Qu'imaginez-vous? Là, c'est encore plus compliqué. Hein, on est dans le domaine des représentations, des idées et de l'imaginaire. Et si vous le faisiez, passez à l'action. Ça nécessite encore un effort complémentaire. Ça vous fait penser à quoi? Qu'évoque cette musique? Les émotions, il y a toujours une relation à la culture. On n'a pas tous la même vision de l'art quand on se trouve en France, en Afrique ou en Amérique latine. Les sensations, ça nous rappelle à notre histoire, à notre éducation. Qu'évoque cette chanson, cette couleur, ce poème? Donc vous voyez que là, il y a des mécanismes qui sont à l'intérieur, qu'on appelle les mécanismes de l'impression, qui sont mis en œuvre. Alors, maintenant, si on passe à la pratique artistique active des mécanismes qui vont donc de l'intérieur vers l'extérieur de l'être humain. C'est-à-dire, on a une intention, on voit un joli coucher de soleil, on dit, tiens, j'aimerais bien le représenter, d'accord? Ou un bouquet de fleurs. Donc, on va agir, et ensuite, le résultat donne une production. Ça marche qu'avec l'activité artistique des arts plastiques. C'est ce qu'on appelle le principe de distanciation. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait mon œuvre, elle n'est plus moi-même. Alors que dans la danse, dans le théâtre, dans le mime, par exemple, l'action et la production vont être confondues. Si je fais mon mouvement de danse, je suis en même temps la production artistique, d'accord ? Donc, en fait, on voit aussi qu'en fonction des différentes disciplines artistiques, on ne va pas activer les mêmes mécanismes. Hein, y a des mécanismes communs qui sont stimulés, mais il y a des mécanismes aussi complémentaires. Donc là, on est encore dans l'émotion, dans la communication non-verbale. Et là, on sait ô combien c'est important avec des personnes qui ont perdu l'oralité, la faculté de s'exprimer verbalement. Le plaisir esthétique avec les sensations agréables ou désagréables d'ailleurs. Et on peut dire que l'impact sensoriel, donc les cinq sens un peu sont mis à contribution, que produit l'œuvre d'art implique une réaction physiologique et psychologique. Donc le corps et l'esprit sont mis en œuvre avec un atelier de pratique artistique. Alors maintenant, on n'est pas dans l'atelier d'art quand on fait de l'art-thérapie. Il y a quelque chose en plus. Parce que je vous expliquais qu'en fait, c'est l'art qui se met au service de l'être humain. Alors comment ça se passe? Et déjà, qui est-ce qui peut être concerné par ça? Donc déjà, il faut partir du principe que la vie est un long fleuve tranquille pour personne, malheureusement. On a tous des blessures de vie, des événements plus ou moins traumatisants, une histoire, des fois un handicap, une maladie. Et puis, comme je vous le disais, au milieu de toutes ces disciplines qui se terminent par thérapie, qu'est-ce qui peut me convenir à moi? Qu'est-ce qui peut convenir aux parents que j'accompagne, à l'enfant, etc. Donc les indications... L'art-thérapie s'adresse aux personnes qui présentent des troubles de l'expression, de la communication et ou de la relation. Parce qu'on voit que c'est un outil privilégié, un moyen privilégié d'expression, qui crée aussi une communication entre les hommes et possède aussi des effets relationnels. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà une pratique artistique pour être pris en charge en art-thérapie. Bien entendu, quelqu'un qui est totalement débutant peut être pris en charge en art-thérapie. Simplement, ce qui est nécessaire, on n'oblige personne à faire du vélo s'il n'a pas envie de faire de vélo. On n'oblige non plus personne à faire un tableau s'il n'a pas envie de faire un tableau. D'accord ? Là, ça, c'est important. Donc, il faut que ces personnes soient quand même un minimum sensibles à l'art et désireuses d'en faire l'expérience. Il y a des personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont préférer simplement écouter, assister à un concert... aller à une exposition, et puis d'autres personnes qui ont envie de participer à un atelier. Et on peut dire aussi que l'art-thérapie dans les indications répond à un besoin d'affirmation de soi, de confiance et d'estime de soi. Hein, ça active des mécanismes qui permettent justement de s'exprimer, de communiquer, d'être en relation Et avec l'orientation des exercices de l'atelier d'art-thérapie, on a des objectifs thérapeutiques, bien entendu, qui conduisent à, en fonction des problématiques, bien entendu, des patients ou des personnes prises en charge, à ces besoins d'affirmation, de confiance et d'estime de soi. Alors, quelles sont ces bestioles rares, les art-thérapeutes ? Donc, les compétences de l'art-thérapeute, bon, tout d'abord, dans art-thérapie, il y a art. Donc, pour nous, il est indispensable d'être un artiste confirmé. Si je travaille avec un jeune homme trisomique qui me dit « Moi, j'ai envie de dessiner petit ours brun avec une brouette bleue », et que je dis « Ah oui, mais moi, je suis art-thérapeute, mais je fais que de l'art abstrait. Alors, petit ours brun avec une brouette bleue, c'est un point posé comme ça sur le tableau. » Il ne va pas être satisfait. Ça ne va pas correspondre à son intention, le mécanisme qu'on a vu avant. D'accord ? Donc, il va bien falloir que je sache l'accompagner et que moi, j'ai ses connaissances pour l'accompagner. Ok ? Donc, l'art-thérapeute connaît le processus artistique. On est nous-mêmes artistes au départ. Les mécanismes mis en œuvre dans une production esthétique et donc, il maîtrise des techniques et des savoir-faire. Donc, ensuite, dans art-thérapie, il y a aussi thérapie. Donc, l'art-thérapeute est un thérapeute, il a des connaissances médicales, il connaît les pathologies de ses patients, la biologie, la pharmacologie, la psychologie. Bien entendu, on n'est pas psychologue, médecin, biologiste, pharmacologue, etc. Hein? C'est comme dans les autres professions paramédicales, on a les informations, la connaissance nécessaire à la bonne pratique de notre métier. Et moi, je rajoute toujours une qualité, c'est que je pense qu'il est indispensable à un art-thérapeute d'être un bon pédagogue. Parce que je peux être douée dans mon art, je peux être une très bonne musicienne, mais si je ne sais pas transmettre à quelqu'un, hein, parce que souvent les artistes sont aussi des personnes qui aiment bien travailler solitairement, si je ne sais pas transmettre à une autre personne, ce n'est pas la peine de vouloir être art-thérapeute. Donc il y a une notion de pédagogie. Et puis, pour compléter cette diapositive, j'ai rajouté, ça fait partie du métier, que nous adhérons à un code de déontologie qui nous engage à une éthique professionnelle, propre aux professions paramédicales et dans le respect des patients. Alors, qu'est-ce qu'on fait pratiquement ? Parce que là, c'est bien beau, je vous raconte qu'on fait des ateliers d'art, mais ce n'est pas des ateliers d'art. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Alors déjà, on voit l'histoire du patient, sa pathologie, quels sont ses désirs, ses goûts, ses habitudes. Est-ce qu'il présente un handicap, une pathologie, une blessure de vie, des douleurs, des souffrances ? Donc de là, en fait, on va commencer à rédiger ce qu'on appelle un protocole art-thérapeutique qui est forcément individuel et personnalisé. Il n'y a aucun protocole qui peut s'appliquer à une autre personne, bien entendu, puisque là, on est vraiment dans l'individu, dans ses goûts, dans son style qu'on va l'aider à exprimer. Donc déjà aussi, on va l'aider à choisir une discipline artistique. Alors, on n'est pas tous multidisciplinaires au niveau des art-thérapeutes, mais c'est vrai que c'est important pour nous aussi de connaître différentes disciplines artistiques. Donc pour ma part, j'ai listé les techniques que je propose, notamment aux patients Alzheimer, donc le dessin, peinture, chant, écriture, modelage, danse, etc. Ensuite, on propose un atelier individuel ou en petit groupe. Si on crée des petits groupes, c'est bien sûr parce qu'on a des objectifs thérapeutiques qui sont communs. Et c'est aussi en fonction du niveau de dépendance et du besoin d'accompagnement du patient. Alors, pendant la séance, nous, on observe ce qui se passe et tous les mécanismes qui sont mis en œuvre. Déjà parce qu'on les connaît, on les maîtrise. Et les adaptations nécessaires au patient. Est-ce que la personne a un problème de préhension ? De dextérité de sa main droite, si elle est droitière. Est-ce qu'il va falloir adapter les outils ? D'accord ? Est-ce qu'elle prend des médicaments qui font qu'elle va avoir une sécheresse buccale et que si on la fait chanter, au bout d'un moment, elle va avoir la gorge qui la gratouille ? Ok ? Donc, connaître la pharmacologie, c'est ça, par exemple. C'est connaître les effets secondaires des médicaments. Et si elle prend tel médicament, on va se dire, tiens, je vais lui placer un petit verre d'eau à côté si elle a besoin. Si c'est vraiment son intention de chanter, ok, mais on va adapter. Donc ensuite, comme toute profession paramédicale aussi, on a besoin d'évaluer l'évolution du patient. Donc on a des outils qui sont propres à notre profession. On remplit en fait à la fin de chaque séance ces outils qui nous permettent de préparer la séance suivante et éventuellement de fixer des objectifs intermédiaires si on voit qu'on poussait la personne peut-être un peu trop rapidement. Et ensuite, on rédige des bilans régulièrement, on partage les informations avec l'équipe et des synthèses aussi qui peuvent être ajoutées à un dossier médical. Alors concrètement, toute prise en charge débute par un entretien, donc une rencontre avec chaque patient pour savoir qui a besoin de leur thérapie et qui est sensible. Comme je vous le disais, on n'oblige personne à participer. Choix de la technique artistique et petits exercices à deux, parce qu'au départ, enfin, moi j'ai toujours besoin de faire ces petits exercices pour voir déjà les capacités, pour ne pas mettre la personne en échec. On sait par exemple les difficultés de visioconstruction d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc si elle se rend compte qu'elle met les oreilles à 3 km du visage qu'elle a commencé à dessiner, elle ne sera jamais satisfaite de sa production, donc il va falloir l'aider et adapter. On vérifie les indications. Si le patient répond bien aux indications de l'art thérapie, on rédige une fiche d'ouverture pour initier le protocole de prise en charge. C'est grâce à l'équipe pluridisciplinaire et au dossier médical que je peux connaître les pénalités du patient. Il ne va pas forcément me les expliquer. Et aussi les rencontres avec les familles, ça c'est primordial. Les échanges avec les familles, ça permet aussi de savoir si les séances d'art-thérapie, puisque moi je ne suis pas là pour que la personne elle soit dépendante de moi, je suis là pour qu'elle aille mieux, et pas simplement qu'elle aille mieux dans mon atelier, mais qu'elle aille mieux aussi chez elle. C'est-à-dire que les séances aient une répercussion sur sa vie quotidienne. Donc ça, c'est uniquement les familles qui vont pouvoir me dire « Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, et je sens qu'elle est plus sereine, elle est plus détendue, elle déambule moins. » D'accord ? Ça, c'est des clés importantes. On va déterminer la périodicité des séances. Donc chaque patient pris en charge individuellement le sera une fois par semaine au moins, par exemple, afin de renforcer la recherche de bénéfices. Donc rédiger les bilans, ça je vous l'ai expliqué. Et rédiger les synthèses, donc moi j'ai fait à peu près toutes les 10-12 séances. Alors, comment et où trouver un art-thérapeute ? Donc les art-thérapeutes exercent en libéral, en institution, à domicile ou en associatif aussi. La FRATAPEN, donc Association Française de Recherche et d'Application des Techniques Artistiques en Pédagogie et Médecine, peut vous transmettre les coordonnées, puisqu'en fait, eux, ils ont l'annuaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'annuaire vraiment sur Internet, mais on trouve quand même des informations. Si vous tapez art-thérapie Vienne, par exemple, bon, des fois, il y a des art-thérapeutes qui ont leur propre site. Sinon, il faut voir aussi, par rapport aux institutions, les art-thérapeutes qui interviennent en institution, si elles font des prises en charge aussi en dehors de l'institution, parce qu'on a rarement un temps plein dans une seule institution. Voilà quelques illustrations d'œuvres réalisées par des patients. Donc là, c'est une dame qui avait 90 ans, c'était il y a 2 ans, et qui en fait aimait beaucoup son jardin, et qui donc en fait je suis partie d'une thématique qu'elle affectionnait beaucoup, donc on est parti sur des végétaux. Ce qui était assez amusant, c'est que la saison de l'arbre variait en fonction de son humeur, c'est-à-dire qu'une séance c'était l'hiver, là ça va pas, je suis fatiguée, il neige. Et puis, donc on ne le voit pas parce que là ça s'est arrêté, quand elle était satisfaite de sa production, c'était entre le printemps et l'été. Hein, et donc à certains moments il y avait des fruits qui venaient, puis hop on les a enlevés, donc c'était intéressant. Et elle disait, c'est mon arbre, il me représente, il n'est pas très bien foutu, un peu comme moi, mais je l'aime bien. Voilà, donc là c'est des dessins réalisés par 2 patientes différentes de l'accueil de jour d'Entrant. L'une de ces patientes là, qui a réalisé la rose à gauche, une sorte de mouvement perpétuel de spirale quand elle dessine. Donc pour lui montrer que quand elle fait ce mouvement-là, on peut quand même créer quelque chose de beau, je l'ai aidée à le faire par rapport à cette rose en utilisant différentes couleurs, donc en accompagnant. Bien entendu, on ne réalise jamais à la place du patient. Et là, l'autre dessin, c'est une dame qui ne fait... Si on donne une feuille, on ne donne pas de consigne, elle ne fait que des végétaux comme ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'elle a besoin d'exprimer. Et alors, elle part avec un élan et elle a vraiment besoin. Et quand elle finit la séance, elle dit « ça y est !» et elle part. Donc conclusion, l'art en soi n'est pas curatif. Ça se saurait parce qu'on pourrait dire déjà que tous les artistes se sentent très bien. Or, on a beaucoup d'exemples comme quoi les artistes ne sont pas forcément tous très bien dans leur basket. Donc, c'est vraiment l'orientation vers des objectifs thérapeutiques qui fait qu'on peut aider une personne à se sentir mieux. L'art-thérapie exploite les effets de l'art au service des patients en vue de réduire les pénalités de leur quotidien. La valorisation des capacités préservées, donc on va prendre ce qui est encore opérant chez la personne, dans le cas de, la maladies neurodégénératives, aussi bien pour la maladie d'Alzheimer ou les autres démences que pour la maladie de Parkinson, par exemple. Et on va potentialiser ce qui marche encore. On va le mettre en valeur, ce qui va aider la personne à avoir davantage confiance en elle et à préserver un maximum l'autonomie. L'art-thérapie, enfin, utilise des moyens thérapeutiques adaptés aux qualités naturelles humaines, puisque je disais, on a tous cet idéal esthétique, et avec les facultés émotionnelles, expressives et communicatives de l'homme. Voilà.
Merci. Merci Valérie. Alors, nous allons donner la parole à Christine Vivion, qui va nous exposer une étude de cas auprès de personnes dépendantes.
Bonjour et merci de votre présence. Donc je vais, à part contre oui, le micro, ça va aller là ou pas? Parce que j'ai tendance à bouger, alors peut-être que
je... Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon? Ok. Voilà, donc je vais vous parler de l'intérêt de l'art-thérapie dans le vieillissement normal. Comme on vient de l'exposer, en art-thérapie, on va aider à stimuler les sens, ce qui est particulièrement intéressant parce qu'on sait très bien qu'avec le vieillissement, eh bien, les sens sont altérés, le champ visuel est réduit, etc. Donc notre rôle, ça va être de stimuler tout ça. Et la pratique de l'art-thérapie sera intéressante aussi pour pallier la solitude et l'isolement que vivent souvent les personnes âgées qui vivent soit chez elles ou en institution. Alors l'art-thérapie est particulièrement intéressante aussi pour les maladies dégénératives. Pourquoi ? Parce que justement, on note chez ces personnes-là une plus grande perméabilité aux émotions et aux sentiments. Donc en fait, une disposition particulière à pratiquer les arts plastiques. D'ailleurs, j'invite les gens de tout âge qui ont des problèmes pour exprimer leurs émotions et leurs sentiments de s'intéresser à l'art-thérapie, qui est un très bon moyen. L'art-thérapie est aussi une forme de communication non-verbale et donc dans les personnes atteintes de pathologies dégénératives type Alzheimer, là où les personnes cherchent de plus en plus leurs mots et voient leur langage s'appauvrir, ici elles vont trouver une façon de communiquer qui va être soulageante. Aussi, pour un instant, la personne reprend un peu les commandes de sa vie. Et là, on va s'intéresser plus à ces possibilités créatrices qu'à son handicap, on va l'oublier un petit peu. Oui, alors, moi, je suis installée depuis 2 ans et demi. J'ai un atelier à Lusignan. Et c'est prévu que je parle plus particulièrement des interventions à domicile. Bien souvent, les gens pensent que l'art-thérapie ne se fait qu'en institution. Moi, je bouge de Lusignan, j'ai mon petit chariot à roulettes et je peux venir chez vous avec tout ce qu'il faut pour faire une séance. Et je voulais insister sur les CESU. Bien souvent, les gens ne savent pas qu'on peut intervenir en art-thérapie dans ce domaine-là. Alors bon, le texte législatif, je ne connais pas par cœur, hein, donc c'est les services d'accompagnement et d'aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle par le biais de prestations culturelles ou artistiques, d'activités intellectuelles, sensorielles ou motrices, pour les personnes en perte d'autonomie. Donc en fait, l'art-thérapie entre bien dans le champ d'application des CESU, ce qui offre aussi des avantages fiscaux, etc. Autrement, toutes les personnes qui ont plus de 60 ans ou qui sont inscrites à la maison départementale du handicap peuvent en bénéficier, mais il faut que ce soit à domicile, c'est une des conditions. Hein. Alors maintenant, je vais vous présenter une étude de cas qui a été faite en institution, alors avec quelques réalisations. Donc c'est Madame G. Madame G est née en 1919 et elle vit en institution depuis 1999 suite à un accident vasculaire cérébral. Alors, au niveau des observations, cette dame est très fatiguée et puis au début de la prise en charge, elle venait en déambulateur et après, elle ne quittera plus son fauteuil roulant. Et elle souffre beaucoup, enfin, j'en parlerai un peu plus tard. Alors, au niveau de l'histoire de Madame G, je dirais que elle a eu une vie relativement sereine. Elle a presque toujours vécu dans la région. Elle s'est mariée, a eu 5 enfants, 12 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants. Et ce qu'elle aime surtout, c'est la nature, les fleurs. Elle adore les chats, ce qui lui manque en institution. Elle aime chanter également. Alors, au niveau de la sémiologie et des traitements en cours, en fait, depuis son AVC, elle ne peut plus manger de sa main droite. Et autrement, elle prend des médicaments pour les douleurs parce qu'elle souffre d'arthrose et des problèmes de tremblement. Alors, au niveau de l'objectif de la prise en charge, cette personne-là, en fin de compte, ce qu'elle supporte très mal dans la vie en institution, ce qui l'irrite au plus haut point, c'est d'avoir l'impression de subir. Elle dit souvent, ici, on commande rien, on suit, on décide pas. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui la peine énormément. Donc, avec l'équipe médicale et paramédicale, il a été décidé de travailler sur le maintien ou l'amélioration de l'estime de soi et de l'autonomie. Alors, comme on en a parlé brièvement tout à l'heure, nous avons différents outils. Nous avons une fiche d'observation que nous remplissons à chaque séance, qui sera un reflet de ce qui a été fait, et qui va permettre ensuite de pouvoir faire l'évaluation pour mesurer les effets de l'art sur la personne. Bon, là, moi, j'ai simplement mis une partie, justement, là, sur les capacités relationnelles, avec, bon, par exemple, la communication verbale, communication non verbale. Bon, et là, on voit en fin de compte que ça a été à peu près maintenu. Hein, mais ça permet justement de prendre du recul et de mesurer l'efficacité de la prise en charge. Autrement, au niveau de la synthèse des observations, je dirais qu'en fait, Madame G est très agréablement surprise de constater qu'elle peut peindre de sa main droite alors qu'elle ne peut plus manger avec celle-ci. Donc, ça lui plaît énormément. Et surtout, elle montre un vif intérêt pour ce qui est de la peinture. Et pour elle, ça va être une façon intéressante de retrouver un petit peu tout ce qui lui manque en institution, c'est-à-dire qu'elle va toujours demander à faire des choses sur la nature, les animaux de la basse-cour, les chats qu'elle adore. D'ailleurs, vous voyez ici, c'est les murs blancs avant. Là, c'est un peu plus sympathique et un peu plus vivant. Alors, je dirais en bilan que l'étude de cas de Madame G lui a permis, la pratique artistique lui a permis de quitter sa passivité pour redevenir actrice et créative. En étant actrice, elle se sent capable. Et on sait tous que la confiance en soi et l'estime de soi est liée au fait de se sentir capable et ce qui doit être motivé par l'action. Alors, capable de réaliser des choses, puisque donc elle a fait des différentes œuvres, capable de vivre entièrement le présent. Quand on est concentré dans une activité artistique, on oublie un peu ses préoccupations, voire ses douleurs éventuellement. Capable de vibrer, parce que le but de l'art-thérapeute, c'est de faire en sorte que la personne prenne du plaisir et ait envie de recommencer, justement, de retrouver ce plaisir. Capable de recevoir des compliments par les œuvres qui existent. Et peut-être, à mon avis, ce qui est très important aussi, capable de progresser dans un domaine alors que d'autres déclinent. Hein, quand on voit ses capacités physiques et intellectuelles diminuer, quand la famille et les amis disparaissent un peu, etc. Là, on a quelque chose où on voit où on a une progression. Et je dirais qu'au niveau de cette étude de cas, on peut dire que l'estime de soi et l'autonomie ont été maintenues. En fait, on a tous besoin de vivre des succès pour entretenir ou améliorer notre estime de soi. Puis ça passe par l'action, entre autres ici l'activité artistique. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que les œuvres deviennent des sujets de discussion qui sont générateurs de communication. Hein, là, au niveau de l'institution, que ce soit avec les personnes de l'institution, le médecin, et puis surtout la famille aussi, qui en fait, ici, va découvrir un sujet de discussion qui est gratifiant sur la vie en institution. On va parler un peu d'autre chose que de la maladie. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que Mme G se projetait dans les séances à venir. Et pour moi, se projeter, c'est vraiment exister, quoi. Alors, en conclusion, je dirais que s'exprimer à travers la production artistique, c'est exprimer ses états d'âme, ses sentiments, ses pensées, ses émotions. C'est aussi les évacuer, les faire sortir hors de soi. Donc, évidemment, c'est déjà moins douloureux une fois que c'est, qu'on les extériorise. Et surtout sous une forme socialement admise. Et là, j'avoue que les personnes agressives, par la pratique artistique, on obtient des résultats très intéressants. L'image de soi est modifiée et celle qu'on renvoie également. Et donc ma phrase de conclusion, ce sera que justement, par la pratique artistique, cette nouvelle source de plaisir va permettre de s'adapter, puis d'accepter peut-être plus facilement justement les pertes physiques, psychologiques, affectives et sociales qui sont liées au vieillissement. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Gilles Vanier Rodriguez.
Alors, je tiens à préciser que Christine Vivion a donc installé un atelier à Lusignan et elle est mobile puisqu'elle vient à domicile. Elle travaille avec la population de 7 à 80 ans et elle est installée depuis 2 ans et demi. Nous allons passer à une autre étude de cas avec Madame Givania Rodriguez qui travaille en institution. Elle est diplômée de la fac de médecine de Poitiers. Elle est originaire du Brésil et vit en France depuis 12 ans. Elle intervient auprès des personnes dépendantes et elle fait partie de la DAPI aussi. Nous l'écoutons. Merci.
Bonsoir. Je vais vous présenter un étude de cas qui concerne une personne suivie à la maison de retraite à la Rêverie Château-Garnier, en art-thérapie. On l'appellera Lourdes. Et Lourdes est une femme âgée de 63 ans, veuve avec des antécédents psychiatriques. Elle présente des troubles cognitifs évoluant depuis 3 ans, évoquant la maladie d'Alzheimer. Elle a vécu à Paris.
Ah, pardon.
Merci.
C'est bon.
Elle a vécu à Paris toute sa jeunesse. Il n'y a quasiment pas de traces écrites de sa vie passée. Toutes les informations la concernant viennent d'elle-même ou de sa famille et du personnel de la maison de retraite. Lourdes a été mariée et n'a pas eu d'enfants. Elle a travaillé dans une banque privée et elle a beaucoup voyagé à l'étranger avec son mari. Elle était passionnée par les tonneaux. Après le décès de son mari, son état de santé et son état dépressif se sont aggravés. Elle est diabétique et sa famille ne peut plus assurer sa prise en charge. Lourdes a été placée en maison de retraite. Elle présente des troubles intentionnels. Elle trouve difficilement les mots propres aux objets et aux situations. Son vocabulaire devient restreint. Et elle présente des difficultés d'élocution. Lors de la période d'observation, au début de la prise en charge en art-thérapie, Lourdes avait conscience de sa perte de mémoire. Et cela la rendait malheureuse et engendrait donc une souffrance. Lourdes était prise en charge à l'hôpital du jour en orthophonie et participer à un atelier hebdomadaire d'échimulation cognitive. Elle s'y trouve en situation d'échec dans ses activités et souhaitait ne plus y participer. Elle va à une consultation de neurologie tous les 4 mois. Pendant mon stage, Lourdes a été orientée à participer à un atelier d'art-thérapie. L'équipe et un médecin coordonnateur qui fait l'orientation. Lourdes est dirigée vers une prise en charge en art-thérapie. La technique employée, c'était la danse, l'expression corporelle. Les méthodes utilisées sont des jeux et des mises en situation. Les aspects abordés sont l'expression et l'émotion. Ce travail consiste à favoriser de nouvelles expériences valorisantes afin de faire émerger ses capacités d'invention artistique en travaillant sur l'estime de soi et la confiance en soi. La mise en place de l'activité Lourdes a 10 séances hebdomadaires individuelles en art-thérapie. À partir de la 11e séance, elle a participé à un travail en duo avec une autre patiente. Déroulement de la séance. Lourdes a bénéficié de 20 séances en art-thérapie à dominante théâtre. La durée est de 25 minutes au début de la prise en charge et c'est 60 minutes pour les dernières séances. Les 4 premières séances ont lieu dans une chambre vide. Ensuite, il a été trouvé un couloir sans issue dans lequel l'art thérapeute a improvisé un aménagement, une petite décoration afin de rendre les lieux chaleureux et sécurisants. Au cours de ces séances, Lourdes a révélé une évolution importante dans son comportement. Les jeux et les mises en situation l'aident à redécouvrir sa sensibilité et lui procurer du plaisir. Maintenant, pour conclure, je vais vous présenter un diaporama du travail de quelques patients. Et vous verrez 2 dessins extraits du livre d'André Degen, l'histoire du théâtre dessiné. Non, là, l'histoire du théâtre commence avec les Grecs, la tragédie. On connaît bien. La comédie.
Alors, je tiens à préciser que le principe de confidentialité est levé par l'autorisation des familles et des établissements concernés.
Merci.
Merci, Giovania. Beaucoup d'émotions dans l'art-thérapie. Donc, nous allons donner la parole à monsieur Étienne Héroux, qui est ergothérapeute. Il va nous présenter et nous définir l'ergothérapie. Il exerce auprès de personnes âgées. Alors, tant qu'il s'installe, je vais vous parler un peu. Il est diplômé en ergothérapie depuis 2003. Il a fait une formation en maison de retraite en Tunisie pour la nouvelle école d'ergothérapie de Tunis. Puis il a travaillé 2 ans dans 2 EHPAD en région parisienne, dont une EHPAD spécialisée pour les artistes en retraite. C'est une ancienne maison des artistes. Et actuellement, il intervient en accueil de jour auprès de personnes âgées, dépendantes. Nous l'écoutons. Merci.
Alors, si vous me le permettez, je vais commencer par définir l'ergothérapie, qui est une profession encore peu connue, malgré son ancienneté. Et j'expliquerai ensuite mon rôle auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, dans le cadre de séances donc au centre de jour. Alors, l'ergothérapie est née dans le début des années 1900 aux États-Unis, où elle était appelée Occupational Therapy. En France, c'est vrai que l'occupation est plutôt assimilée à la distraction. Donc la traduction retenue de l'Occupational Therapy donc, sera l'ergothérapie, qui vient du grec ergon, qui signifie donc travail, œuvre. Donc, c'est donc la thérapie par le travail. Les 2 premières écoles françaises ont vu le jour en 54. L'ergothérapie a connu de nombreuses définitions au cours de son histoire et de son évolution. Je ne vais pas m'attarder dessus. Il faut surtout retenir que l'ergothérapie donc, est une thérapie par l'activité. Alors, l'ergothérapie, elle s'adresse à des personnes atteintes de maladies ou de déficiences de nature somatique, psychique ou intellectuelle. Elle s'adresse à des personnes qui présentent des incapacités ou à des personnes en situation de handicap temporaire ou définitive. Le but de l'ergothérapie est de favoriser le maintien ou l'accession au maximum d'autonomie des individus en situation de handicap. C'est une profession de santé qui intervient dans le domaine de la rééducation, de la réadaptation et de l'insertion. Elle se réfère aux sciences humaines, médicales, psychologiques, sociales et techniques. Zut. Alors, comment procède-t-on ? L'ergothérapeute commence par évaluer. Il évalue les déficiences et les incapacités. Il évalue aussi les éléments significatifs de l'environnement humain et matériel. Et il en ressort des situations de handicap que la personne peut avoir lors de réalisation d'activités dans son domaine familial, scolaire, professionnel ou socioculturel. L'ergothérapeute utilise des activités thérapeutiques, donc spécifiquement choisies, l'artisanat, le jeu, l'expression. Il utilise aussi des mises en situation de la vie quotidienne, la cuisine, les toilettes, les loisirs. Donc ces activités, elles favorisent les fonctions déficitaires, elles développent les capacités résiduelles, elles réduisent les situations de handicap et elles permettent à la personne de conserver tout son potentiel physique, psychique, sensoriel ou relationnel. L'ergothérapeute réalise aussi des appareillages, des dispositifs de positionnement et d'installation destinés à améliorer le confort, à prévenir l'apparition ou l'aggravation de complications ou à corriger des déformations. L'ergothérapeute peut également analyser les besoins en aide humaine en vue du retour ou du maintien dans le lieu de vie. L'ergothérapeute étudie également les aménagements environnementaux nécessaires. Il recherche et il conseille le matériel et les aides techniques. Il guide les essais et l'apprentissage de leur utilisation. Il apporte un avis technique spécifique en intervenant auprès de la personne, de son entourage, d'associations, de collectivités locales, etc. Enfin, il accompagne aussi la personne dans l'élaboration de son projet de vie. Alors, ce qu'il faut retenir sur l'ergothérapie, c'est que 3 notions fondamentales la définissent. Ce sont l'autonomie, la dépendance et l'activité. Alors, les pratiques de l'ergothérapie revêtent des modalités très diverses. Alors, selon l'âge des bénéficiaires, selon les déficits ou les handicaps, selon les endroits où elles se pratiquent, selon les demandes des institutions ou des bénéficiaires, ou selon les compétences même de l'ergothérapeute. C'est vrai qu'on ne fera pas du tout le même travail avec un enfant scolarisé, avec un adulte en fauteuil roulant ou avec une personne âgée en maison de retraite. Il n'y aura pas les mêmes objectifs, pas du tout les mêmes activités proposées. Mais toutes ces modalités diverses, elles visent toujours une chose qui est l'activité humaine. Je vais vite. Non, ça va. Alors, au centre de jour, je vais développer donc l'action que j'ai au centre de jour, qui accueille majoritairement des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Donc la fonction première de l'accueil de jour est d'apporter du soutien et un peu de répit à des personnes qui décident de garder à domicile un parent, un conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer. Nous recevons donc ces personnes une à quatre fois par semaine pour la journée. Donc cette journée, elle est pour moi, ergothérapeute, l'occasion de mettre ces personnes en activité pour maintenir leur capacité fonctionnelle, intellectuelle et relationnelle, et ainsi permettre le maintien à domicile. Alors les objectifs de prise en charge sont très nombreux et différents selon les personnes, forcément. On peut tout de même dégager certains objectifs généraux, hein, comme la revalorisation, l'entretien de la sensorimotricité, la stimulation de la mémoire, le maintien des gestes de la vie courante, le maintien de l'identité personnelle et de l'estime de soi et du rôle social, l'exploitation des intérêts et des potentialités de chacun, l'entretien des réalités somatiques, spatiales et temporelles, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Donc pour mener à bien ces objectifs, j'utilise donc les activités. Elles sont diverses, elles prennent en compte les envies et les centres d'intérêt de chacun. Donc, les ergothérapeutes ont un peu un moule biomédical, ils sont un peu, hein, et ils sont souvent tentés de vouloir effacer les dommages physiques et psychiques de la personne âgée, comme s'ils espéraient ajouter un peu des années de vie à la personne âgée. Il y en a qui connaissent un peu tout ça. Moi, mon objectif tend plutôt à ajouter de la vie aux années d'existence de la personne âgée. Vous verrez qu'il existe une convergence certaine entre les finalités de mon action et celles de l'animation, puisque les activités proposées n'ont pour but que de mettre en activité la personne âgée, c'est-à-dire d'éveiller en elle ses potentialités, d'exploiter son expérience, ses ressources, de ressusciter ses intérêts. Ce qui fait la différence, c'est la démarche qui n'est pas du tout la même. Je commence toujours par un entretien semi-structuré avec la personne qui me permet de reconstruire son passé, d'identifier ses habitudes de vie. Cet entretien me permet également de me présenter et de présenter mon travail, de choisir les activités qui lui conviennent le mieux et décider d'investiguer plus, par exemple, tel ou tel domaine si je remarque un dysfonctionnement quelconque. Donc on va voir les différentes activités. J'ai tenté de les regrouper en catégories, mais bon, vous allez voir. Donc il y a des activités artisanales qui sont énumérées là, comme la mosaïque, la peinture sur soie, fabrication de bougies de savon, de la restauration, de la décoration de meubles, de la décoration d'objets, de la vannerie. Donc toujours, ces activités sont choisies en fonction de l'intérêt de la personne. Elles sont surtout adaptées pour que la personne puisse le faire et qu'elle soit contente du résultat aussi. Donc voilà quelques petits exemples de mosaïques justement qu'ont pu être faits, de peinture sur soie ou de... un paravent qui avait été restauré. Donc il y a aussi les activités manuelles, la décoration des locaux communs pour que les gens investissent un peu plus le lieu, de la couture pour les dames surtout, de la peinture, du papier mâché, de la petite menuiserie, plutôt pour les hommes du coup. Donc là je vous montre des exemples parce que c'est vrai qu'on maintient un petit peu les réalités temporelles en faisant les activités qui sont fonction des événements de l'année. Donc là, par exemple, vous avez reconnu, c'est Noël. Donc les Pères Noël, la cheminée, tout ça, les décorations, le calendrier de l'Avent. Bon, c'est vrai que ça entretient toutes ces réalités-là. Là, c'est une fresque qui a été faite sur le thème de l'Espagne, qui a été une fête dans l'EHPAD. C'était le thème d'une des fêtes de l'EHPAD. Donc avant de faire cette fresque, ça a été l'occasion de faire un atelier cognitif sur l'Espagne, où chacun disait à quoi lui faisait penser l'Espagne. Donc il y a eu plein de choses, Luis Mariano, Don Quichotte, le flamenco, Barcelone, plein de choses. Et après, j'ai distribué les activités en fonction des intérêts des personnes. La dame qui est fan de Luis Mariano a fait Luis Mariano. Les dames qui font un peu plus de couture se sont occupées de la robe et du chapeau. Le monsieur qui aime plutôt travailler le bois a fait le bateau. Monsieur un peu plus littéraire avait fait Don Quichotte, enfin, etc., etc. Donc là, c'est d'autres activités qui ont été faites, comme de l'encadrement, pour décorer un petit peu les locaux, pour qu'ils s'approprient bien les locaux. Pareil, ça c'est un cache extincteur, c'est tout simple, mais il était ravi d'aider un peu la maison à s'améliorer aussi. Alors les autres activités, donc ce sont les activités au service de l'entretien de la santé, donc des jeux de préhension s'il y a des problèmes de mouvement, de préhension, des jeux de lancer pour travailler les épaules et tout ça, la gymnastique de l'esprit, donc le travail sur l'Espagne, peut-être le premier travail c'était un petit peu ça, des ateliers d'expression aussi, c'est important. Et également, ce qui est une spécificité de l'ergothérapie, ce sont les activités de la vie quotidienne, donc la cuisine et le jardinage. Vous savez, je peux difficilement demander à quelqu'un de faire sa toilette alors qu'elle vient d'arriver tout habillée et tout ça. Non, c'est surtout cuisine et jardinage. Voilà, donc en conclusion, j'ai une petite phrase. La personne âgée aura besoin d'être aidée, encouragée, stimulée pour pouvoir affronter et accepter sa nouvelle tranche de vie. C'est le rôle que doit jouer l'activité. Bien pensée, bien menée, elle va agir de l'intérieur jusqu'à toucher et modifier son être profond. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. La personne âgée a un choix d'activité qui finalement, on se demande pourquoi les gens ne veulent pas aller en EHPAD ou en institution médicalisée, surtout avec des ergothérapeutes et des art-thérapeutes aussi intéressants. Alors maintenant, nous allons voir une autre discipline, c'est assez novateur et singulier, ça s'appelle les activités physiques adaptées, présentées par monsieur Le Charpentier et monsieur Roumagne. Je vais prendre mes lunettes, j'y verrai mieux. Ils sont diplômés d'un master engineering de la rééducation. Ils sont créateurs de l'association Ressentez-vous. Ils sont spécialistes donc des activités physiques adaptées en gériatrie. Actuellement, ils prennent en charge plus de 100 personnes dans la Vienne, soit dans des EHPAD, des foyers logements, des résidences, des institutions. Et nous les écoutons. Merci.
Très bien. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je vais présenter. Ça va se dérouler en deux parties. On va présenter un petit peu l'action de Ressentez-vous et ce qu'est l'activité physique adaptée. Et ensuite, on présentera nos travaux dans le cadre de notre master. On a fait deux études scientifiques sur l'intérêt de l'activité physique adaptée chez les patients atteints d'une démence de type Alzheimer. Donc là, c'est à toi de jouer. Alors, ah oui, pardon. Je croyais que c'était balancé. Donc Ressentez-vous, l'objet de Ressentez-vous, c'est de proposer des thérapies non médicamenteuses pour améliorer maintenir plutôt les capacités cognitivo-motrices des patients de type Alzheimer et toutes les personnes âgées en perte d'autonomie. Donc je vais commencer par définir moi aussi l'activité physique adaptée, parce que c'est quand même quelque chose qui est pas très connu, notamment dans le domaine gériatrique, et surtout que c'est un sigle aussi qui est repris par... donc l'allocation personnalisée pour l'autonomie. Donc l'activité physique adaptée, donc il s'agit de l'adaptation des activités physiques et sportives en vue de l'amélioration et du maintien du statut de santé des personnes malades et en situation de handicap, le plus souvent inscrit naturellement dans des protocoles de prise en charge pluridisciplinaire, et c'est pour ça qu'on est ici tous réunis. Donc les principes d'un programme d'activité physique adaptée, parce que l'activité physique adaptée, c'est pas seulement une activité physique régulière, pas seulement d'aller marcher 30 minutes par jour. Elle s'inscrit dans un programme. Si on veut avoir des intérêts thérapeutiques, il va falloir déterminer des objectifs de soins. Et donc, il y a certains principes du programme à respecter. J'en ai énuméré quelques-uns. Donc, respecter la progressivité dans la charge d'entraînement. Alors, entraînement est un grand mot. Hein. Vous comprendrez que j'utilise le mot entraînement, mais... On va parler plutôt de programme d'activité physique adaptée. Le principe de continuité et fréquence, il n'y aura pas d'effet, ne serait-ce que des effets de bien-être ponctuels s'il n'y a pas de continuité et une fréquence d'au moins 2 à 3 fois par semaine, si on veut avoir un intérêt, que ce soit sur le plan moteur, mais sur le plan cognitif aussi. Alors le principe de répétition et de récupération, il va falloir trouver un équilibre entre la charge d'exercice et le temps de récupération. le type d'activité proposée. Donc c'est de l'activité physique adaptée. Donc on va faire un choix d'activité physique en fonction de l'objectif fixé avec l'équipe soignante et en fonction des effets qu'on recherche. Et enfin, l'évaluation et le suivi de la personne. Comme tout thérapeute, il va falloir déterminer des évaluations, des tests en fonction des objectifs, encore une fois, qu'on a déterminés. Et ces tests, donc ça peut être des tests sur des tests moteurs, mais des tests cognitifs aussi. Donc, la place des activités physiques adaptées auprès de ces personnes âgées atteintes d'une démence de type Alzheimer. Donc, comme je vous ai dit en introduction, nous avons mené deux études scientifiques sur l'intérêt des programmes d'activités physiques adaptées. Et donc, on va les présenter chacun notre tour. Je vais présenter celle que j'ai menée, donc en collaboration aussi avec Guy, mais avec le CHU de Poitiers et avec le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, donc le CERCA, qui est à la Maison des sciences humaines. Donc, sur deux problématiques. D'abord, une problématique un peu plus motrice sur les paramètres spatio-temporels de la marche et l'équilibre, et une problématique plutôt sur les fonctions cognitives et les troubles du comportement du patient Alzheimer. Donc, l'étude que j'ai menée, l'objectif était donc d'étudier les effets même d'un programme d'entraînement d'activité physique adaptée sur 15 semaines. Donc, sur les fonctions cognitives, le test qui a été réalisé, c'est l'ERFEC, donc l'évaluation rapide des fonctions cognitives globales. Donc, ça dresse un tableau rapide des fonctions neuropsychologiques du patient Alzheimer. Et le second test sur les paramètres spatio-temporels, c'était un test locométrique, avec le logiciel Satel. Et cette étude a été menée donc, sur 31 personnes âgées atteintes d'une démence de type Alzheimer et dans divers EHPAD autour de Poitiers. Donc, la conclusion de cette étude a été à la fois inquiétante et à la fois encourageante pour les activités physiques adaptées. Inquiétante par rapport au groupe témoin, parce que je répète, c'est une étude qui a été menée sur 15 semaines, donc relativement courte. Et le groupe témoin, donc ce groupe témoin qui n'a pas réalisé de programme d'activité physique adaptée, on a observé une dégradation significative de ce score à l'ERFEC, une dégradation de la vitesse de marche, de l'augmentation du temps de double appui. Donc à la fois une dégradation sur le plan cognitif et à la fois une dégradation sur le plan moteur et psychomoteur. Et donc le groupe de programme en programme qui avait bénéficié d'un programme d'activité physique adaptée, lui on a observé un maintien de ce score à l'ERFEC, et donc on peut supposer un maintien de ses capacités cognitives, une augmentation de la vitesse de marche et une augmentation de la longueur d'enjambée. Donc on peut penser que ces programmes d'activité physique adaptée ont un effet à la fois sur les paramètres moteurs, mais sur les paramètres cognitifs. Et certaines études sont en développement dans ce domaine. Donc voilà. Donc je vais passer la parole à Guy Le Charpentier, qui a mené une autre étude similaire mais différente.
Similaire mais différente, exactement. Donc moi je me suis penché sur l'équilibre. Non, je me suis intéressé au même public, des personnes âgées souffrant de la maladie Alzheimer, ayant un MMS compris entre 8 et 18, donc des démences modérées à sévères, à qui j'ai proposé un programme de 15 semaines d'activité physique adaptée. Donc je vais détailler ce programme. Donc au passage, je parlerai aussi du programme qu'a proposé Nicolas. Donc moi, je me suis intéressé au trouble du comportement et au contrôle postural et à la charge de travail des soignants en distribuant un questionnaire aux équipes soignantes. Donc les activités physiques que j'ai proposées, donc qui étaient en rapport avec mes objectifs, était l'élaboration d'une approche de l'activité Tai Chi Chuan, donc l'apprentissage d'un enchaînement de postures, sachant que la mémoire procédurale est une des mémoires les plus préservées épargnées par la maladie. Donc on apprenait des enchaînements de postures, de 3-4 postures, par répétition, par pantomime. Donc les résidents y arrivaient et au fil du temps on travaillait à la fois sur l'équilibre postural et à la fois sur la mémoire procédurale. Donc ça c'était pour mon programme d'activité, sachant que ça c'était le cœur de ma séance. Donc avant ça il y avait un échauffement et à la fin de ma séance il y avait toujours 15 minutes de relaxation qui ont un effet intéressant aussi pour ce public là. Donc Nicolas avait la même trame de séance, sauf qu'au lieu de proposer une activité centrée sur l'équilibre postural, il travaillait sur des parcours moteurs, puisque lui, sa thématique était la marche. Donc mon étude a été faite sur 28 personnes âgées. Et voilà, donc tu peux passer, voilà. Donc en ce qui concerne les résultats, donc comme Nicolas, des résultats inquiétants pour le groupe témoin, donc une dégradation significative de l'équilibre postural. une augmentation des troubles du comportement et de la charge de travail des soignants. Donc, pour revenir sur l'équilibre postural, j'ai fait mon évaluation sur une plateforme de force. C'est un appareil qui permet d'évaluer le contrôle de la posture statique et qui donne des paramètres assez fins sur la prévention de la chute. En ce qui concerne les patients qui avaient suivi un programme d'activité physique adaptée, il y a eu donc un maintien des paramètres de certains paramètres posturaux, voire une amélioration de ces deux paramètres, qui sont intéressants puisque le paramètre longueur en X que vous voyez ici correspond aux oscillations sur le plan médio-latéral, donc les oscillations sur le côté. Et ce facteur est prédictif de chute. Donc plus la personne oscille sur les côtés, plus elle a de risque de chuter et de se fracturer le col du fémur. Donc là, il y a eu un recentrage de la posture et il y a eu moins d'oscillations sur le plan médio-latéral. En ce qui concerne le paramètre VFY, ça peut paraître un petit peu chinois comme ça, donc je vais vous le traduire. Donc le VFY, c'est un paramètre qui traduit l'activité de l'activité musculaire des muscles de la loge postérieure. Donc en français, ça donne une traduction de la statique. Donc une personne qui a un VFY élevé va avoir une posture en flexion et une personne qui va être redressée va avoir un VFY très faible. Donc pour les patients qui avaient suivi un programme d'activité physique adaptée, on s'est aperçu qu'il y avait un redressement de la posture et à contrario, le groupe témoin, une posture en flexion qui augmentait et donc des facteurs prédictifs de chute qui augmentaient. Et en ce qui concerne... Je peux parler des troubles du comportement. Donc en ce qui concerne les troubles du comportement, il y a eu aussi une dégradation des troubles du comportement pour le groupe témoin et une amélioration du comportement, on va dire, et notamment donc, des scores pour l'apathie, donc des personnes un peu plus dynamiques, un peu moins atoniques pour le groupe activité physique, une amélioration du score de dépression et également du sommeil. Et enfin, une diminution de la charge de travail des soignants. Alors, on voulait vraiment rajouter cette partie de complémentarité par rapport aux professionnels de santé qui étaient dans les structures où on intervenait. Donc je vais commencer par les kinésithérapeutes qui travaillent parfois avec les mêmes patients et avec qui on fait un travail complémentaire justement pour pérenniser les bénéfices de la rééducation. Donc on vient en relais de cette prise en charge en kinésithérapie. On peut aussi venir en complément pour catalyser la récupération fonctionnelle. Par exemple, une personne qui est en phase de rééducation de la marche, mais qui est déconditionnée, nous, on va pouvoir proposer un programme d'ergocycle pour reconditionner la personne d'un point de vue cardiovasculaire. Ensuite, on peut apporter des éléments métrologiques supplémentaires, et notamment la plateforme de force. Donc, j'ai un cas concret dans un EHPAD à Chasse-Neuil où je travaille en collaboration avec un kiné, puisqu'on a une patiente en commun, et je lui propose mes évaluations qui sont complémentaires pour ses bilans. Et enfin, nos activités sont sur la base du volontariat, on ne force pas nos personnes à venir, donc il y a cette source motivationnelle qui n'existe pas en kinésithérapie, puisque ça fonctionne sur prescription médicale. Nous, on est plus sur une orientation du médecin, mais pas une prescription. Par rapport aux ergothérapeutes, Étienne, je viendrai à l'art thérapie tout à l'heure. Donc, Étienne parlait de thérapie par l'activité. Donc, nous, c'est thérapie par l'activité physique. Ça peut sembler similaire comme ça, mais nos approches sont parfois différentes. Il y a parfois des thématiques communes, mais on a chacun notre cursus, donc chacun notre approche, et notre approche est complémentaire. Donc on peut par conséquent diversifier le programme de réadaptation quand on a des patients en commun et catalyser cette réadaptation. Et enfin, il y a aussi ces bienfaits sur l'appareil cardio-respiratoire. Donc je parlais des programmes d'ergocycle tout à l'heure. Donc ce sont des bienfaits qu'on ne va pas retrouver dans l'ergothérapie, bien que l'ergothérapie ait énormément d'atouts. Hein. Donc l'art-thérapie, qui vous a peut-être paru assez proche de l'ergothérapie dans les interventions précédentes, bien qu'elle soit complémentaire, c'est un exemple ce soir, hein, donc Valérie et Étienne travaillent dans la même structure, avec parfois les mêmes patients, je suppose, et elles travaillent en symbiose et font un travail un travail efficace et passionnant. Donc, par rapport à l'activité physique, donc pour revenir à ce qu'avait dit Valérie tout à l'heure, on joue moins sur l'émotionnel qu'en faisant des activités physiques, quoique on peut, mais on n'est pas sur une sensibilité artistique et une production artistique. Donc, l'aspect art-thérapie peut être complémentaire et complémentaire de l'activité physique adaptée. Donc, je vous remercie de votre attention. Donc on n'avait pas le temps de parler des orthophonistes, des psychomotriciens qui eux aussi sont des professionnels qui agissent
sur. Oui, bien sûr. Merci. Toutes ces thérapies non médicamenteuses ont un cadre, travail fonctionne avec un cadre d'évaluation et d'observation. Elles sont riches en activités, en offres de prestations. Il est vrai que c'était bon de préciser, par rapport à la maladie d'Alzheimer, nous pouvons tous offrir des activités aux malades parce du fait que la mémoire procédurale est préservée. Et il y a même, d'après des travaux, on récupère plus nous au fil des activités et des séances rythmées dans une institution, on récupère de la mémoire. Alors ça fait partie de travaux actuels, mais c'est vrai que ça, c'est intéressant. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à valider nos interventions thérapeutiques. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines maladies apparentées, par exemple la maladie frontotemporale. La mémoire procédurale est beaucoup moins préservée. Mais ça, c'est bon. Donc voilà, nous allons passer à une table ronde, si vous le permettez. Donc si vous avez des questions à poser auprès des intervenants et également auprès de Monsieur Giraud, qui est à mes côtés, nous sommes ouverts à la discussion et à l'échange. Alors, je vais... Oui. Non, j'ai pas l'impression.
Non, voilà. Et au cas où des questions viendraient ultérieurement, on a disposé à l'extérieur sur la table nos coordonnées. Si vous avez besoin de nous contacter plus tard. Voilà. Je crois qu'il y a une question.
Merci. Je voulais poser une question à la seconde intervenante. Pourquoi avoir choisi une malade ayant eu un AVC plutôt qu'une malade ou un malade Alzheimer? Ça, c'est une première question.
Voilà, alors je vais vous répondre parce que tout simplement le sujet de ce soir, c'est sur les personnes âgées dépendantes. Et il se trouve que dans mes plus de 2 ans d'activité, j'ai beaucoup plus de personnes de 7 à 80 ans et peu de personnes dépendantes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette étude de cas. En fin de compte, j'ai un public plus de jeunes finalement que de personnes âgées. Voilà.
Je suppose que la réaction d'un malade d'Alzheimer n'est pas la même qu'une personne ayant fait un AVC.
Si je peux me permettre, une démence de type vasculaire rejoint dans le comportemental, rejoint au fil du temps la problématique de la maladie d'Alzheimer. Et c'est la raison pour laquelle une démence de type vasculaire est comprise dans les maladies apparentées, donc fait partie des maladies apparentées.
À terme, Sylvie, oui, mais au départ, non. La réaction n'est pas la même. Et que faites-vous des malades de moins de 60 ans? Ils n'ont pas droit à...
Oh. Alors ça, je suis désolée, mais ce n'est pas moi qui fais les lois. Mais j'ai des personnes, évidemment, qui viennent en art-thérapie, mais qui ne peuvent pas bénéficier du CESU. Hein. Donc, évidemment, ça coûte un peu plus cher, c'est tout. Mais autrement, la loi Berlot, ouais, c'est les personnes qui ont moins de 3 ans, ça, j'en ai pas. les personnes qui ont plus de 60 ans ou celles qui sont inscrites à la maison départementale du handicap. Il n'y a que dans ce cadre-là où l'art-thérapie peut être rémunérée en CESU. Voilà.
D'autant plus que le malade de moins de 60 ans n'est pas admis en EHPAD. Donc
si,
ça, c'est problématique.
Si sur dérogation. Ouais.
Donc c'est vrai que faut y a beaucoup dérogation à faire pour les jeunes malades.
Et est-ce que toutes ces thérapies peuvent être, si le malade a plus de 60 ans, peuvent être, je dirais pas prises en charge, mais si la personne bénéficie de l'APA, est-ce que ça peut fonctionner? Ça, c'est...
J'avoue que moi, systématiquement, quand une personne me demande quelque chose, on fait une simulation avec l'URSSAF, on contacte, etc., parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de cas différents que je ne suis pas compétente pour le faire. On le fait ensemble éventuellement, mais... Oui, mais je... Si, peut-être, mais j'en suis pas...
Passer par le clic aussi, le clic.
Il y a une histoire de... Enfin bon, je vous dis, à chaque fois, on contacte, parce que tous les cas sont différents, et voilà. Comme ça, ça permet d'avoir vraiment les informations, parce que moi, je me sens pas apte pour répondre à toutes les questions juridiques. Mais c'est très compliqué. Parfois, récemment, on a fait une personne, justement, qui voulait venir en art-thérapie. Je pensais qu'elle aurait eu droit à un crédit d'impôt, etc. Les lois fiscales sont un peu compliquées. Voilà, c'est pour ça, moi, c'est l'URSSAF qui voit après. Avant de la prise en charge, on se met d'accord pour ça. Mais je ne peux pas répondre à toutes les... C'est trop compliqué. J'ai mis longtemps, d'ailleurs, avant de m'y retrouver. Voilà.
Merci. Et une question à Antoine. À Étienne, pardon. Est-ce que vous intervenez seul quand vous faites de la couture et de la cuisine? Ça, c'est un petit peu une blague, entre guillemets.
Les hommes aussi peuvent coudre et cuisiner. Mais j'ai appris. J'ai une machine à coudre moi-même et je m'en sers très bien.
Je témoigne. C'est...
Pour ce qui est des activités théâtrales, est-ce qu'il y a dans la Vienne une compagnie de théâtre qui travaille, mais peut-être à plus grosse échelle, peut-être pour réaliser des pièces, pour faire des productions et pour libérer peut-être encore plus les émotions et d'une manière physique, pour rejoindre peut-être des activités physiques? Est-ce que des choses existent, mais à l'échelle plus importante en théâtre?
Apparemment, personne... Non, ça n'existe pas à ma connaissance, mais en plus le théâtre est très difficile, c'est opérant auprès des... Je sais qu'en art-thérapie à dominante théâtrale, il y a eu des ateliers de théâtre montés avec, établis et réalisés par des comédiens. Je sais que ça existe. Je pense que c'est possible pour des malades précoces, en premier stade, effectivement, ça fonctionne. Il me semble, de mémoire, j'ai passé mon diplôme en 2001, je commence à perdre la mémoire par rapport à ça. Je sais que ça existe et ça fonctionne.
Un certain nombre d'art-thérapeutes qui font faire du théâtre aux malades. Alors, ça implique, c'est assez compliqué, il faut un lieu. Ensuite, ça peut se faire au départ en individuel, mais ensuite, c'est collectif forcément, puisque c'est une activité de groupe. Et puis, il faudra, à la fin, tout théâtre doit déboucher sur une représentation. Et qui dit représentation doit avoir un public. Donc, il faut qu'il y ait une représentation théâtrale pour couronner l'effort, mais cela implique donc un lieu et un public. Et c'est une activité qui est assez difficile à mettre sur pied.
Très difficile.
Beaucoup plus difficile que la peinture ou la musique.
Bien sûr, oui. C'est pratiqué au stade précoce de la maladie, Mais effectivement, ça dérape très vite sur quelque chose de... Puisqu'on fait intervenir la mémoire. Bon, effectivement, là encore, la mémoire procédurale peut fonctionner par les mouvements, par une répétition des mouvements. Mais donner trop dans la répétition avec un malade d'Alzheimer, c'est assez compliqué. Donc, mais je sais que ça existe. Il y a eu des ateliers de réaliser qui effectivement se réalisent à l'intérieur d'un établissement. Donc, a pour public d'autres malades. Mais c'est très compliqué. Je sais que c'est pas évident du tout. Il faut être bien formé à ce genre de prestations.
Comme j'avais dit, ma dominante, c'était le théâtre. Mais je vois qu'auprès de cette population, oui, on ne peut pas dire qu'on fait du théâtre. On utilise les moyens du théâtre. Parce que s'il faut enlever quelque chose en art-thérapie, on enlève l'art. C'est la thérapie qui est là. C'est l'effet de l'envie de faire. Parce que, comme dit le professeur Géraud, après, c'est tout beau, comme dit-on, plusieurs choses mises en place. Et après, peut aussi changer l'objectif de la thérapie. Peut-être aussi pour... Je ne connais pas.
Mais j'ajoute qu'il y a des résultats très intéressants par le théâtre pour certaines pathologies, et notamment, pas spécialement pour Alzheimer, mais pour tout ce qui est schizophrénie, le théâtre donne d'excellents résultats.
Je pense que dans la salle, beaucoup de gens ont vu le film ou l'émission avec Annie Girardot, qui nous disait qu'elle continuait de jouer. Qu'en pensez-vous? J'ai été surprise de voir qu'elle pouvait continuer de jouer, alors qu'il faut quand même, entre guillemets, ingurgiter un certain nombre de textes. Qu'en pensez-vous?
Alors, je n'ai pas vu cette émission, mais elle a encore une partie de sa mémoire qui peut lui permettre d'apprendre un texte ou de se servir de textes qu'elle a déjà appris, ce qui doit être quand même beaucoup plus facile.
Oui, j'ai vu l'émission et c'était très intéressant, parce que très émouvant aussi, parce qu'effectivement, elle a des acquis et ils ont réactivé tous ces acquis. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, elle avait déjà un potentiel de comédienne. Et ils l'ont vraiment encadré, et c'est presque limite, je trouve. Enfin, c'est limite, hein, quand même, malgré tout. Mais en plus, c'est qu'elle, elle était hyper motivée. C'est presque, elle est entrée dans le déni de la réalité de la maladie. Donc du coup, elle prend sur elle, elle utilise des compensations, et c'est très éprouvant. Mais c'est réalisable, effectivement. Ça, c'est presque un défi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je souhaitais exprimer un encouragement, un très grand encouragement pour tous les thérapeutes sur toutes les formes, et en particulier réfléchir sur cette notion de perte d'autonomie. Vous voyez, dans une maison de retraite, il y a une perte d'autonomie, il y a des déficits, on accumule la sémiologie négative, si vous voulez, pour dire, effectivement, c'est justifié que nous intervenions. Alors, pourquoi je parle là? C'est pour encourager les thérapeutes avec une optique iatrogène. C'est-à-dire que quand vous dites à une personne âgée de rentrer dans une maison de retraite, qu'est-ce que vous leur dites à la personne âgée? Vous dites... Surtout, ne faites pas de vagues, ne parlez pas trop fort, ne déambulez pas trop, ne faites pas trop. C'est-à-dire, vous allez mettre des boulets aux pieds de cette personne âgée institutionnalisée, et à ce moment-là, elle perd automatiquement son autonomie. Alors, je voudrais lancer, c'est alors d'abord encourager tous les thérapeutes sous toutes les formes, parce que ce que vous faites, c'est irremplaçable, c'est de l'oxygène pur, si vous permettez, dans la vie mentale de ces gens. Alors, bravo à tous. Moi, je parle en tant que médecin. Si vous voulez, j'étais médecin dans une maison de retraite. Et je connais, j'ai senti assez bien le manque d'ergothérapeutes. La beauté d'un geste, aussi simple que celui que je fais aujourd'hui, par exemple, là, c'est pas déliré. Alors, donc, encourager toutes les thérapies possibles, donner à tous les thérapeutes une raison de s'activer. Et puis, se souvenir que ce qui est utile pour une personne âgée, c'est d'avoir une motivation, être motivé à faire quelque chose. Alors, j'ai deux utopies dans la tête. Vous avez, d'ailleurs, j'étais content d'entendre, l'utopie de l'atelier de cuisine. Savez-vous comme c'est merveilleux de faire une bonne soupe, un bon potage de légumes? C'est d'une simplicité enfantine, mais il faut se mettre autour de la table et chacun va peler une pomme de terre. Réflexion faite, ergothérapeute, peut-être vous allez m'approuver, peler une pomme de terre, c'est très savant, c'est très intéressant. Puis le poireau que vous mettez dedans, on en parle après à la soupe, qu'est-ce qu'elle est bonne ta soupe, etc., etc., etc. La deuxième utopie, c'est l'atelier de couture. Pourquoi ne pas faire un petit atelier de couture où moi, je ne sais pas du tout coudre, vous voyez, hein, ben, je suis content d'aller à la maison de retraite parce que je vais trouver une petite grand-mère qui va me remettre mon bouton, figurez-vous. Qu'est-ce que c'est superbe! Donc, la motivation psycho-affective, la communication avec les autres, voilà ce qui m'est. Je crois que c'est un moteur, ça. Alors, peut-être, moi j'aime bien entendre la sémiologie, ça me rappelle, mais j'aimerais bien entendre aussi la lecture positive d'un Alzheimer. Quand je pourrais, alors là, un petit témoignage. Alzheimer en train de mourir, édème aigu du poumon, si, figurez-vous qu'elle récitait en latin un psaume de David. Alzheimer en train de mourir, OAP, bon, intraveineuse de l'Asilix, je rappelle cette affaire-là puisqu'elle n'est pas décédée. Après, elle nous a dit, vous avez bien travaillé, c'est pour ça que je rappelle pas les mauvais exemples. Donc, vous voyez, l'idée, c'est, un, ce que vous faites, c'est terriblement précieux. Deux, il n'y a pas que du déficit dû aux malades, il y a de la iatrogénie institutionnelle, j'insiste énormément là-dessus. Et trois, il faut mettre de l'utopie. Utopie positive où mon patient, très déficitaire, va faire tiens, une pièce de théâtre, comme vous citez tout à l'heure cet artiste, on a bien connu dans notre génération. Hein. Et donc, alors, du courage, du courage, du courage, c'est merveilleux ce que vous faites, et ce que je vous dis, venez dans les maisons de retraite, activez, soyez optimistes et regardez toujours, comme disait Furtos, la partie saine de votre patient. Merci, excusez-moi,
c'est
un peu long.
Merci beaucoup.
Je peux ajouter quelque chose? C'est que je travaille uniquement dans un centre de jour où les personnes viennent à la journée avec un petit temps. C'est vrai qu'en maison de retraite, la problématique serait complètement différente. Je ferais autre chose aussi. Il y aurait un accompagnement pour éviter l'autonomie, sur la toilette, un peu d'activité physique aussi, mais adapté avec des activités. Il y aurait sûrement de la cuisine également, de la couture. C'est vrai que tout ça, il faut du temps et des moyens. Et des fois, c'est ce qui nous manque un peu aussi.
Bien sûr, c'est circulaire. Ouais. Tout est dans l'échange et dans la vision de l'autre, le regard de l'autre.
On avait fait d'ailleurs, oui.
Pardon. Moi, je voulais répondre au premier point aussi, parce que c'est vrai que moi, c'est un de mes sujets de recherche. Le fait que l'institutionnalisation, ça peut heurter leur personnalité. Or, nous, art thérapeutes, on travaille avec cette personnalité, cette identité. Puisque quand on veut faire entrer la personne dans le monde artistique, il va bien falloir aiguiser son appétit de se rappeler de qui elle est aussi et de ses goûts. Bien entendu, même nous, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être pathologique pour avoir des goûts qui évoluent et qui changent. Et justement, quand on vient stimuler, il y a des moments où en institution, j'ai eu le sentiment de dire je vais à l'encontre des autres, parce que c'est vrai qu'on est rythmé, mais toute vie sociale nécessite effectivement de prendre les horaires plus ou moins à la même heure, d'aller se coucher plus ou moins à la même heure. Cela dit, je trouve que ça évolue beaucoup et qu'il y a de plus en plus d'institutions qui s'adaptent au rythme individuel. Et puis, comme le disait aussi Étienne tout à l'heure dans sa présentation, c'est vrai qu'en accueil de jour, ça peut être une préparation à l'institutionnalisation, c'est-à-dire on a déjà un contact avec des soignants au quotidien, même si c'est qu'une ou deux fois par semaine. On commence, ça rassure de connaître avant d'arriver avec toutes ces petites affaires, parce que c'est vrai que de passer de chez soi à « je n'ai plus mon chien, mon chat, mon jardin », mes tableaux, ma couture, etc., c'est pas facile à vivre. Et c'est vrai que c'est important de le souligner, et c'est bien justement pour la raison pour laquelle on va travailler sur la personnalité, et en n'allant pas à l'encontre de l'institution, parce que bien entendu, le but c'est aussi l'intégration dans l'institution quand cela s'avère nécessaire.
Je...
dès qu'on sort le malade, la personne âgée de son contexte habituel, il y a un fossé qui se creuse et elle est déroutée, elle n'a plus ses repères et on aggrave la situation.
Je voudrais aborder le traitement difficile d'une personne qui refuse, enfin, premièrement, qui n'a plus les capacités de démarrer une activité. Je pense là à une personne que j'ai bien connue, une femme de 72 ans, qui avait été couturière pendant toute sa vie. On lui a proposé une activité de couture, ça semblait aller de soi, et en fait, elle n'avait plus l'initiative, elle ne pouvait plus faire. C'était aussi simple que cela. Mais ensuite, elle a donc vécu une sorte d'échec, puisqu'il lui restait quand même beaucoup de conscience, et elle n'a pas réussi à accepter d'autres sollicitations. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'obligera pas les personnes, c'est vrai, mais est-ce qu'il ne faut pas solliciter, même peut-être solliciter fortement les personnes? Est-ce qu'il y a un seuil? Et comment éviter l'échec et la dévalorisation de soi? C'est certainement très sensible, là.
Alors là, ça, c'est très intéressant. C'est une très bonne question, parce que justement, une personne qui a été musicien, une personne qui a été couturière, tout ce qu'on peut lui présenter, c'est autre chose. Surtout autre chose, et ne pas la mettre en situation d'échec. C'est pour ça que le documentaire sur Madame Annie Girardot a été très difficile pour moi, parce qu'on l'a mise en situation d'échec. En tant que comédienne, on réutilise tout son savoir-faire et on la booste sur son savoir-faire avec la répétition. Or, c'est facile, puisque dans le processus de la maladie d'Alzheimer, le malade est très facile à faire fonctionner dans la répétition. On s'est servi de cela. Et ça, c'est très, très mauvais, parce que elle a conscience, à un moment donné, que ce qu'elle fait, c'est rien par rapport à ce qu'elle a fait dans le passé. Donc, l'effet miroir est très, très négatif. Donc là, pour le coup, on précipite presque la personne dans le processus de la maladie. Disons qu'on ne la précipite pas, elle y est déjà, mais disons qu'on renforce le processus de la maladie. Alors, un musicien, j'ouvre une petite parenthèse, puisque justement sur ce domaine-là, mon papa était musicien, et j'ai essayé, moi, j'étais à ce moment-là art-thérapeute débutante, je me suis dit, tiens, bah, après tout, ça peut être sa thérapie, ça va fonctionner. Et bien, bah, pas du tout. Il m'a fait des gestes comme quoi il ne voulait plus en entendre parler. Donc, c'est tout l'inverse. Il faut aller sur une thérapie qu'il ne connaît pas et le motiver. Et le motiver, ce qui n'est pas toujours évident. La motivation est la grande difficulté de tous les thérapeutes. C'est de motiver la personne et d'exercer dans la... cette motivation le plus longtemps possible. Et moi, je me souviens d'un travail qui avait été fait entre l'art-thérapie et l'ergothérapie. On arrive tous, à un moment donné, à un pic de motivation, et hop, ça redescend sur une démotivation, et là, c'est terminé. Il faut offrir et proposer autre chose.
Je pense qu'on peut... On peut toujours aussi adapter l'activité. Enfin, moi, en tant qu'ergothérapeute, on a beaucoup d'aides techniques, ce qu'on appelle les aides techniques, c'est les choses qui nous permettent de faire des choses quand on ne peut plus les faire. C'est-à-dire, pour faire de la couture, eh ben, on va prendre des aiguilles un peu plus grosses. On va prendre un enfil-fil dans une aiguille. C'est-à-dire qu'on a juste à poser l'aiguille, le fil, et puis tac, le fil rentre tout seul. Après, on prend une loupe, en gros, pour que la personne voit mieux la chose. Et voilà, donc déjà, elle est moins mise en échec. On lui donne toutes les possibilités qui peuvent exister techniquement pour lui donner... l'envie de faire et puis le maximum d'autonomie. Et puis éviter aussi énormément les mises en échec et tout ça. Ouais. Peut-être commencer par une autre activité, pourquoi pas une activité de préhension qui va lui permettre de réutiliser ses doigts pour après aller vers la couture, pour lui repermettre un petit peu de coudre.
Et c'est pour ça que les thérapies travaillent dans un cadre d'évaluation et s'appuient sur l'observation. Et c'est très important. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi à des malades. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons des formations très spécialisées et que nous nous formons toujours et nous apprenons toujours.
Et pour finir sur le dernier point que vous souleviez, je pense que quand la personne n'a pas envie, c'est très difficile n'a pas envie. Et des fois, c'est ne pas avoir envie, c'est ne pas avoir envie de vivre aussi. Hein. Il y a des personnes qui abandonnent. Le contraire existe aussi, c'est-à-dire qu'on a des personnes... Moi, j'ai travaillé, par exemple, avec un monsieur parkinsonien en fin de vie qui ne bougeait plus que deux doigts, alité, alimenté par sonde, de gastrostomie, voilà, très, très mal. Il a réussi à faire du dessin et à y prendre plaisir, à tel point qu'en 6 semaines, il était éclafi de psoriasis avant. Il n'y avait plus de psoriasis, qui était sa manière d'extérioriser sa contrariété à ce monsieur. Donc il y a des choses, et le médecin a dit à ce moment-là, je pense qu'il a réussi à partir mieux et plus vite peut-être aussi, parce qu'il arrivait, il a réussi à se détendre avec l'art thérapie. Alors c'était pas rien, parce que bouger deux doigts, et puis la main, c'est pas Alzheimer là, mais la main qui part, c'était quand même un sacré exercice. Mais il y a des choses fabuleuses aussi qui se passent dans l'autre sens. Mais quelqu'un qui n'a pas envie, déjà on ne va jamais forcer. Et c'est vrai que bon, après nous on a plein de petites stratégies. Personnellement, je fais toujours le clown dans mes séances. Hein. C'est très gai, c'est très convivial. Alors c'est rare que Étienne, bon, on travaille ensemble. C'est pareil, on a une manière de parler aux personnes où bon, on va aller vers elles, quoi. On va susciter cette envie. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui baissent les bras aussi.
Est-ce qu'on a les moyens de recenser les personnes qui ont accès aux art-thérapies ou aux thérapies non médicamenteuses? Il n'y a pas d'études de fait. Parce que sur 70 personnes dans un EHPAD, par exemple, à peu près, on peut penser qu'entre 20 et peut-être 30 personnes ont accès à ces pratiques-là, je pense.
Alors, moi, j'interviens que dans l'accueil de jour, pas dans l'EHPAD, mais peut-être que ça viendra un jour. On travaille en équipe pluridisciplinaire. Je ne l'ai pas précisé parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner sur l'art thérapie, mais la formation de la fac de médecine nous apprend vraiment à communiquer, à travailler ensemble. Alors, en fait, nous, on décide de qui a besoin, qui pose l'indication. Donc, elle est posée par l'équipe d'un commun accord avec le médecin. Sous l'autorité médicale. Et en fait, il y a des personnes qui vont être prioritaires, par exemple parce qu'elles viennent de dépasser un nouveau stade de la maladie. Et là, elles se sentent très mal. Il y a de la dépression qui arrive, la déambulation qui augmente. Donc là, on va favoriser ces personnes. Mais je dirais que nous, par exemple, dans cet accueil de jour-là, il y a 16 personnes. Toutes peuvent bénéficier de l'art-thérapie. Et pour l'ergothérapie, c'est pareil, puisque en fait, on fait aussi des prises en charge collectives. Par exemple, moi, j'anime une chorale le vendredi après-midi. Bon, ceux qui n'ont pas envie de venir ne viennent pas. Mais souvent, ils aiment bien écouter quand même. Alors, parce qu'ils peuvent être fatigués, par exemple. Hein, il faut accepter ça. Donc, ils peuvent aussi profiter simplement d'entendre les autres chanter. Ça peut être aussi sympathique sans participer. Et sur les 16 personnes, j'ai qu'une dame qui ne vient pas. Donc là, tout le monde, parce que c'est pas rien. Moi, je fais pas que étoile des neiges et puis je commence à avoir une overdose aussi de la Java bleue. donc on fait aussi des apprentissages de nouvelles chansons et on s'amuse beaucoup avec ça et ça stimule. C'est dommage, là, j'ai pas eu le temps de vous montrer. J'ai des petits films là-dessus sur des chansons. Alors, je vais pas leur mettre du rap, hein, c'est pas leur. Mais il y a des choses qui leur plaisent beaucoup dans des registres beaucoup plus récents. Et c'est vraiment quelque chose de magique pour eux de se dire, j'ai appris une nouvelle chanson que je ne connaissais pas avant. Et je m'en souviens la semaine d'après et encore la semaine d'après, jusqu'à ce que ça passe dans la mémoire ancienne. Voilà, il y a beaucoup de mal.
Oui, je voudrais savoir quelle peut être la part de l'animal familier, évidemment pas en hôpital de jour, en centre de jour, mais en EHPAD. Il me semble que être éloigné de son chat ou de son chien ou de ses serins, c'est un élément déstabilisateur et que, au contraire, être responsable de cet animal, ça pourrait peut-être aider. Enfin, moi, je suis sûre que oui, mais.
Alors, je passe en un spécialiste à zoothérapie.
J'ai fini à répondre parce que je m'occupe d'un EHPAD, justement, et les chats, chiens des résidents sont acceptés quand ils le demandent. Et il n'y a aucun problème. Et quand j'entendais dire tout à l'heure le docteur dire on va dire aux personnes de ne pas faire de bruit, non, moi, je ne suis pas comme ça. On essaye, bien sûr, on n'est pas parfait, on n'arrive pas à tout faire. Mais je dirais qu'on essaye toujours d'individualiser au titre de la personne. On a une dame qui, à l'heure actuelle, a son petit chien. Bon, c'est évidemment que si on nous proposait plusieurs bergers allemands, ça serait peut-être difficile. Mais je veux dire qu'on a toujours respecté ces choses-là. Là, il y a quelqu'un qui va arriver avec des oiseaux. Et ben, elle arrive avec des oiseaux, notre dame avec son chat. Voilà. Et on essaye d'adapter tout ce petit monde ensemble. Et je vous dis, on essaye vraiment d'adapter en fonction de la personne. Une personne qui a envie de danser, et ben, on va voir avec elle pour danser. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je crois que les EHPAD sont quand même en train d'évoluer.
Oui, c'est voilà. Vrai. Quel EHPAD, s'il vous plaît ? Dans quel EHPAD vous pratiquez votre...
La Rêverie, Château-Garnier.
D'accord, merci. Ah bon.
Oui, je profite d'avoir le micro pour dire tout de suite merci à tous les intervenants qui ont fait des communications extrêmement intéressantes et extrêmement sensibles. Mais je voulais intervenir... non plus dans le cadre de Mendes France, mais pour une expérience que je fais depuis une dizaine d'années, et même un peu plus. Tous les deux ans, nous organisons un colloque à Noirlac, dans un cadre qui est splendide pour ceux qui le connaissent, sur le handicap. Et à chaque session, nous choisissons un thème et interviennent évidemment des professeurs, des médecins et toutes les professions qui sont autour du handicap, y compris d'ailleurs des artistes, des cinéastes. C'est extrêmement intéressant. Moi, j'interviens comme modérateur et surtout comme candide parce que je ne suis ni professeur, ni docteur, ni même savant, quoi que ce soit. L'année dernière, le thème était la sexualité des handicapés. Donc, on est dans des voisins, si vous voulez, entre la personne âgée atteinte d'une maladie dégénératrice et un handicapé qui, lui, veut l'être dès la naissance. Je parle des handicapés mentaux, bien entendu. Il y a quand même des connivences, si je puis dire. Et on a conclu ce colloque avec des communications qui se déroulent sur 3 jours, en disant ceci, en disant de toute façon, et ça rejoint un peu ce que j'ai pu percevoir des intervenants, de toute façon, on ne peut rien faire sans amour. Et ça serait un petit peu, si vous voulez, ce que je voudrais communiquer ici, parce que l'amour agapé, l'amour affectif, aide énormément. L'amour, ce n'est pas simplement des gestes mécaniques, c'est aussi autre chose, c'est une transcendance. Et ça aide, sans doute, si ça aide les handicapés mentaux ordinaires, les jeunes, etc., ça peut aussi aider d'une certaine façon dans les maladies dégénératives liées à la vieillesse. Voilà ce que je voulais vous dire.
D'accord.
Le monsieur qui est là-bas. Après.
Merci. En fait, moi, c'était une question professionnelle par rapport à tout ce que vous avez parlé au point de vue évaluation, savoir ce que vous utilisiez. Dans quelle mesure c'est reproductible, validé et autres. Les art thérapeutes, les ergothérapeutes. Tout.
Donc moi j'utilise des tests. Alors j'utilise le test d'Hatch-Kalfat. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est le BME, le bilan modulaire d'ergothérapie, qui est un bilan qui on va dire regroupe pas mal de choses, enfin notamment vision, audition et puis également un petit peu de membre supérieur, cognitif, aphasie, les praxies et tout ça. On me demande aussi de faire par exemple des BEC 96 ou des choses comme ça. Il y a une psychologue avec moi, donc on se partage un petit peu la tâche. Il m'arrive aussi de faire du TAMPA, le test évaluant les membres supérieurs de la personne âgée. Voilà, ce sont des tests validés et reconnus. Ouais.
Quant à l'art thérapie, quelqu'un veut répondre ou vous voulez que... Bon. alors, nous, en fait, on a un modèle qui est spécifique à l'école de Tours. On part des objectifs. Ce serait un petit peu long à expliquer là, mais on peut se revoir dans un autre cadre pour vous montrer tout comment ça fonctionne. En fait, on part des objectifs thérapeutiques qui sont individuels pour la personne. Et on a des items, c'est-à-dire la plus petite unité observable. de ce qui peut se passer dans un fait de la séance d'art-thérapie. Par exemple, si l'objectif c'est de diminuer la plainte mnésique, la personne qui dit « Oh là, j'ai perdu ma tête encore. » Voilà, il y a des personnes qui vont manifester ça tout le temps. Et ça, c'est une manifestation extérieure d'un mal-être. C'est parce que c'est une manière, quelque part, de s'excuser aussi de ce qu'elle devient. D'accord ? Donc, une manière de l'évaluer, c'est déjà de compter le nombre de fois où elle va se plaindre et de voir si, avec l'activité, ça va diminuer. Alors, le fait que ça diminue, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux. Donc, on va compléter par d'autres items. Alors, ces items sont regroupés dans ce qu'on appelle des faisceaux, une sorte de famille d'items. On va avoir les capacités cognitivo-sensorielles, les capacités esthétiques et artistiques, différentes familles comme ça. Et en fait, l'évaluation ne peut être faite que par le même art-thérapeute, puisqu'en fait, on a des grilles. Et si on transmet le seul objectif, je dirais, c'est pas de savoir vraiment si la personne elle se trouve à 1 ou à 5. C'est de savoir si elle passe de 1 à 5 et pas de 5 à 1. D'accord ? Donc après, la reproductibilité, c'est notre modèle. Donc il y a une validation par la répétition de l'outil. Bon, je pense que je ne sais pas à l'heure actuelle combien on est d'art-thérapeutes diplômés en 30 ans d'école de Tours, mais quelques centaines.
Une centaine par an.
Voilà, et puis sachant qu'on. Donc c'est 30 ans de recherche là-dessus. Oui. Et on a d'autres outils. On a un outil qui a un joli nom qui s'appelle le cube harmonique. C'est un principe d'auto-évaluation où la personne va répondre à trois questions, je schématise, hein, va répondre à trois questions, c'est est-ce que son œuvre, elle la trouve belle, là c'est vraiment sentiment esthétique, est-ce qu'elle la trouve bien réalisée, le beau, le bien et le bon, est-ce que ça lui donne envie de recommencer et de continuer une activité. Alors on va modéliser en fait les réponses et là aussi ça peut être une manière de reprendre confiance en soi, de se dire tiens bah, je me rendais pas compte que l'œuvre que j'ai faite il y a un mois elle est vraiment pas terrible techniquement, j'ai drôlement évolué. Et le fait de pouvoir, parce que la personne elle se souvient pas la plupart du temps hein, dans la maladie d'Alzheimer, donc quand on lui remonte son dessin, elle dit qui est-ce qui a fait ça. Hein, donc on va bien prendre soin de lui avoir fait signer pour qu'elle dise « Ah, bah, c'est, ah oui, c'est moi ». Et elle va dire « Ah, mais là, j'étais pas très bon, là, j'ai beaucoup évolué ». Et c'est intéressant de voir l'évolution des apprentissages artistiques. Hein. Sincèrement, il faut le voir pour le croire, moi, souvent, parce que je trouve qu'on a un métier extraordinaire, parce qu'il se passe, on est dans l'humain, bien entendu, et merci pour avoir cité le mot d'amour qu'on a oublié ce soir. On travaille avec l'être humain, et on est dans une relation. Alors, c'est vrai que nous, les thérapeutes, souvent, on nous dit, le terme, c'est l'empathie. C'est vrai que nous, à l'école, on parle plus de sympathie. Il faut voir comment on nous prend dans les bras, on nous embrasse, parce que ce sont des personnes souvent qui n'ont plus de contact physique. Aussi, vous parlez de la sexualité des handicapés, mais il y a des interventions sur la sexualité des personnes âgées aussi. Et voilà, ils aiment beaucoup le toucher, oui, c'est vrai. Et quand il n'y a plus de contact, parce que ces personnes vivent souvent seules, hein, avec des aides à domicile, etc., c'est important d'avoir encore ce contact. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas amis, mais il y a une relation qui est très forte et qui est au-delà de l'empathie. Et puis, l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place d'eux. Et je crois que quand on n'est pas soi-même malade, c'est difficile. Voilà, après, c'est un point de vue personnel.
Oui, je voudrais avoir votre avis concernant le cas d'une personne âgée qui a une maladie d'Alzheimer débutante. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Elle a démarré une hospitalisation de jour depuis mi-janvier. Et là, actuellement, ça fait deux fois qu'elle refuse d'y aller en nous disant qu'elle ne... Donc c'est ma mère, hein. Donc, en disant à ses filles qu'elle ça ne lui correspond pas, qu'elle ne veut plus y aller, qu'elle ne se sent pas bien, mal à l'aise, etc. Et elle met en avant, elle dit, mais en fait, pourquoi vous décidez pour moi ? Pourquoi vous prenez les décisions à ma place de choses que je ne ressens pas comme adaptées à moi ? Donc, je voudrais savoir, moi, nous, on a vraiment un problème de conscience hein, avec ma sœur.
Parce qu'on se pose des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on lui laisse la liberté de décider tout en ayant peur que si elle ne va pas dans des ateliers de mémoire, elle va régresser? Donc je voudrais savoir si vous pensez qu'il est plus dommageable de lui imposer, je dis bien imposer, donc ces ateliers de mémoire, ou à ce moment-là, est-ce que on commence à réfléchir, est-ce qu'il existe autre chose que les prises en charge d'HDJ en gériatrie à l'hôpital? Donc le type que vous avez, enfin tout ce que vous avez présenté ce soir, et moi c'est un grand soulagement pour moi de savoir que ça existe. Mais ce qui me pose question, c'est comment savoir ce qui va correspondre le mieux à cette personne, donc à notre mère. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Est-ce qu'il peut y avoir une personne qui va faire l'unité de tout ça, qui va pouvoir évaluer ce qu'elle a besoin? Voilà, ma question, c'est ça. Est-ce dommageable? Et d'un autre côté, comment lui proposer ce qui lui convient le mieux pour elle? Je vous remercie.
Alors, ça, c'est très intéressant, parce que la volonté du malade est très importante. Comment peut-on respecter l'identité d'une personne si on va à l'encontre de sa volonté? Si elle n'a pas envie, on ne propose pas des ateliers sous la contrainte. Visiblement, elle est en stade précoce et elle raisonne très bien. Donc, elle a tout à fait, c'est louable, hein, elle a tout à fait le droit de refuser et la volonté du malade doit être respectée. Alors, d'autant plus pour des ateliers mémoire, parce qu'en plus, les ateliers mémoire, c'est pas parce qu'on va lui injecter de la mémoire que la maladie va régresser. Hein. De toute façon, il faut que ce soit dans le plaisir très important, le désir et le plaisir. C'est presque à la base de la vie.
Moi, j'ai essayé l'art thérapie à domicile, par la technique qui lui convient le mieux, musique ou peinture.
Oui.
Essayez. Ben, il faut faire venir un art thérapeute et puis il va... Voilà, absolument. Absolument. Certains, oui.
Absolument.
Si vous avez un art thérapeute qui a la double appartenance musicale et plastique, c'est parfait.
Tout à
Comme ça, il pourra essayer. En général, pour Alzheimer, c'est soit les chansons, soit la peinture qui les aide.
La musique aussi.
Et les chansons, la musique, bien sûr.
D'ailleurs, en musique, le test, c'est l'ISO, c'est le test ISO, c'est-à-dire on va lui passer plusieurs sortes de musique, on va lui demander qu'est-ce qu'elle aime, et on va identifier, c'est une identité sonore, et on peut associer effectivement la peinture sous forme ludique, avec les couleurs simplement, l'approche des couleurs. Le tout, c'est de l'intéresser, de la motiver, et en associant, bien sûr, cette musique qui lui est propre et qui lui correspond. Voilà.
Parce que quelquefois, en associant la peinture et la musique, on obtient des résultats supérieurs à chaque art pris séparément. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, plus la personne âgée reste chez elle, mieux c'est.
Si je peux me permettre, l'ergothérapie peut aussi intervenir à domicile, mais elle va prendre en compte l'activité aussi, mais elle va prendre en compte tous les loisirs qu'a pu avoir eu cette personne avant, tous ses centres d'intérêt, toutes ces choses-là, et peut-être commencer par là, et après évoluer sur autre chose. Elle peut également adapter le domicile s'il y a besoin, faire des choses comme ça, étudier les aménagements nécessaires ou les techniques qu'il peut y avoir besoin.
Alors là, ça
Moi, quand j'ai parlé de...
Il existe une association d'ailleurs qui organise ce soir la soirée France Alzheimer et qui propose des réunions de famille, des entretiens avec les familles, avec votre soeur par exemple, sur la durée. Moi, j'anime donc des groupes de parole et des groupes de famille. Merci.
Et en fait, sur la durée, nous pouvons vous recevoir et nous pouvons travailler sur cette approche-là et sur cette évolution-là dans la prise en charge de votre maman. Et donc, c'est très important, non pas d'avoir que des réponses ce soir, bien sûr, il faut continuer à recevoir des réponses, mais sur la durée, après, nous pourrons vous revoir et puis travailler sur ces choses-là. Et on le fait avec beaucoup de monde, hein, déjà, et généralement, ça fonctionne bien.
Je voulais préciser que pour l'art thérapie à domicile, c'est systématiquement, il y a, enfin, même en institution d'ailleurs, il y a un entretien préliminaire où évidemment les goûts de la personne sont très importants. On va exploiter évidemment ces centres d'intérêt. Enfin, exploiter les. Oui. Oui, en effet, bah, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est sûr.
Alors, très très rapidement, parce qu'il est tard, moi je voudrais répondre un peu à cette dame et enchaîner sur une petite idée. Votre maman, je crois comprendre, madame, elle dramatise sa situation. Pourquoi ? Parce qu'elle s'identifie au plus grave de la maladie. Exemple, j'ai un cancer, y a des cancers qui se guérissent facilement. Et il y en a d'autres qui sont incurables. La maladie d'Alzheimer, il faut prendre conscience que c'est une maladie, mais ce n'est pas le mot Alzheimer qui rend malade. Cette personne, elle dramatise. Alors, pour les thérapeutes, il y a deux clés qui me paraissent très importantes. La première clé, c'est que une personne malade, aussi malade qu'elle soit, a toujours une partie saine. Donc je vais prendre l'habitude systématiquement de commencer par parler à la partie saine de ma malade. Ça, c'est la première idée. Et puis alors, la deuxième idée, deuxième hypothèse de recherche dans la relation thérapeute-malade, c'est que toute malade est en travail de deuil. Travail de deuil, je crois que c'est un mot-clé formidable. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et donc, mon action personnelle, tout de suite, moi, en parlant à la partie saine, je l'aide déjà un peu à faire mon travail de deuil. Vous voyez ? Alors, ici, il y a de l'identification au plus grave. On panique. Et le travail dans ces groupes de parole, c'est très passionnant, les groupes de parole, Alzheimer, en France Alzheimer, c'est très important que vous allez prendre conscience de ce que c'est la maladie d'Alzheimer de votre maman. Elle est spéciale, elle est unique au monde. Vous voyez ? Alors, ne dédramatisez à tout prix. C'est l'urgence. Le diagnostic, le mot n'a aucun intérêt de dire à monsieur, madame, vous avez une maladie d'Alzheimer. Et puis je vais vous faire un test, vous allez voir, ça va vous démontrer que j'ai raison. Moi, j'ai raison, je sais que vous avez une maladie d'Alzheimer. Vous ne le savez pas, madame. Vous voyez, ce narcissisme des thérapeutes, ça, c'est un mal qu'il faut creuser pour nous. Nous devons rester humbles. Tout à l'heure, on parlait d'amour, le monsieur a parlé de charité par rapport. Ça, c'est un mot-clé aussi. Voilà. Hein. Et puis espérance. Alors par contre, cette personne qui est au début de sa maladie d'Alzheimer a tout intérêt, c'est parfaitement connu, de se traiter. Il y a des médicaments maintenant qui freinent quand même. Hein. C'est de la pharmacologie, mais c'est important qu'elle garde un contact avec le corps médical aussi, vous voyez. Hein. C'est très bien. Donc voilà. Donc restons nous-mêmes, restons optimistes. Et nous avons notre propre travail de deuil à faire peut-être aussi. Hein ? Oui. C'est bien votre témoignage, rend service à tout le monde. Mais tous ces gens qui sont autour de vous nous donnent de l'espérance aussi. Tous ces thérapeutes. Il est thérapeute de ego. Moi, je suis content d'être venu.
Merci.
Bien sûr, bien sûr. On a guéri, mais on ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer
D'ailleurs, actuellement, quand je vous ai parlé du principe, des principes de réhabilitation, autrefois, il y a quelques années, le malade d'Alzheimer n'était pas inclus dans ces principes de réhabilitation parce qu'on considérait que la maladie n'était pas curable. Mais au jour d'aujourd'hui, on va s'occuper surtout du temps de sa maladie afin qu'il vive sa maladie le plus longtemps possible et dans des conditions de qualité de vie, de respect de soi, de dignité. Et ça, c'est le François Alzheimer là-dessus est très pointu et est en observation. Observe. Et il défendra ce principe jusqu'au bout, car finalement, un malade d'Alzheimer, on doit le mener jusqu'au dernier souffle de sa vie, dans un bon rapport de qualité et de vie. On dit que le malade d'Alzheimer fait le deuil de soi, il fait le deuil de son entourage. Et vous-même, vous avez le deuil à faire, mais le malade d'Alzheimer aime la vie. Ça, c'est une réalité aussi. Alors, évidemment, il est toujours ballotté entre le déni de réalité. Il est sur deux plans, c'est-à-dire qu'il est sur un plan réel où il aime la vie, et puis subitement, il est sur un autre plan. Là, on ne le saisit plus. Il est dans son stade de repli de soi parce qu'il souffre. Et c'est difficile à gérer même pour les thérapeutes parce que pour aimer la vie, il faut avoir du désir, il faut avoir des intentions, des motivations. Et ça, c'est toujours à relancer. Mais c'est vrai aussi pour les aidants familiaux, parce qu'eux aussi, ils sont toujours en train de rebooster le malade pour qu'il reprenne vie de la vie. C'est difficile à gérer. C'est la raison pour laquelle François Alzheimer va donner le plan Alzheimer, c'est 2009, met l'accent sur la formation des aidants familiaux et des aidants professionnels, parce qu'eux aussi ont la vie dure au sein des établissements.
Je voulais ajouter, pour votre mère, il faut au moins 2 séances d'art-thérapie par semaine. C'est un minimum. Mais il semble... Au fur et à mesure des dossiers qu'on voit passer, que ça aurait un ralentissement sur l'évolution de la maladie. Bon, il n'y a pas d'études scientifiques encore qui soient parues sur la question, c'est simplement ce qu'on constate au fur et à mesure des cas qu'on étudie. Il semble que la pratique de l'art-thérapie régulière ralentisse l'évolution de la maladie. Oui.
Les thérapies non médicamenteuses préservent l'autonomie de la personne et sa qualité de vie. Bon, et bien écoutez, on va en terminer. C'était très très intéressant. Cette conférence a été très très forte, de riche et en émotion aussi, en échange. Et j'espère que nous vous avons apporté le plus de réponses et d'explications précises concernant nos interventions thérapeutiques auprès de ces malades. Merci et bonsoir.